Jazz Génie sur Europe 1.
16h, 18h30, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Isabelle Motreau. Philippe Alfonsi. Gaspard Proust. Stevie Boulet. Jérémy Michalak. Et non, je termine toujours par la vedette et sous la main aujourd'hui, je n'ai que Fabrice Eboué.
C'est vraiment...
Ouais, c'est la vedette de remplacement, quoi.
Là, c'est vraiment la petite émission, quoi. T'as vraiment personne, quoi.
C'est l'équipe de rechange.
Plaignez-vous d'être la vedette, Fabrice Eboué, quand même.
Bah, écoute, c'est sympa pour une fois.
C'est vrai, c'est un peu... Gaspard, vous êtes d'accord, pour l'instant, c'est encore lui la vedette, Fabrice Eboué.
À cause de son film.
Ça, c'est salaud. Vous l'avez vu, Fatal?
Non, j'ai pas vu, mais...
C'est plutôt pas mal, hein, franchement.
Ah, non. Voilà, merci Laurent.
C'est plutôt réussi. Isabelle Motreau, vous l'avez vu, son film?
Non, on s'en fout, on passe à la suite.
Bon, alors j'ai des mails d'auditeurs pour cette dernière émission de la semaine. Quelqu'un qui veut encore parler football, qui dit voilà, je profite de votre émission et de votre voix pour lancer un appel solennel. En effet, j'appelle Laurent Blanc à sélectionner Thierry Henry pour le prochain match contre la Norvège au mois d'août prochain, pour son ultime sélection internationale, car on ne peut en aucun cas lui faire terminer sa carrière sur cette pitoyable Coupe du Monde et cette défaite contre l'Afrique du Sud. Thierry Henry ne mérite pas de finir comme ça. Lancez un appel pour qu'on fasse rejouer Thierry Henry une dernière fois en équipe
surtout
de France.
Isabelle, hein.
Qu'est-ce que vous faites, Eboué?
Non, parce que j'ai reçu une blague d'un ami sur, que je vous ai envoyé tout à l'heure, quoi, qui était une dépêche AFP sur... Petit incident à l'aéroport au moment de l'embarquement des Bleus. Bien qu'ayant retiré sa montre, déposé son téléphone, retiré ses baskets, Raymond Domenech s'est mis à sonner. Preuve qu'il avait encore du métal sur lui. Ce n'est qu'au moment de la fouille au corps que les douaniers sud-africains se sont rendus compte qu'il avait la Coupe du Monde dans le fion. C'est de Jeff.
Elle est en quoi, la Coupe du Monde?
En or. Quelle question.
Ce qui est fou quand même, c'est qu'il termine toujours mal les championnats et les Coupes d'Europe ou Coupes du Monde, Raymond Domenech. Parce que lors de la dernière compétition, il avait demandé la main d'Estelle Denis et là, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu de la main de l'entraîneur
sud-africain.
Sud-africain, c'est quand même bizarre. Il y a toujours des histoires de main avec les Français. Vous n'avez pas suivi les matchs Coupe du Monde, Gaspard. Je sens que vous êtes totalement indifférent.
Si, à fond. Ça me passionne, moi, le ballon.
Les Suisses sont encore qualifiés, non?
Non, je crois que c'est pas encore fait.
Ah bon?
Non, il y a toutes mes équipes de cœur, l'Algérie, l'Irlande, la Slovénie.
Non, l'Irlande, ils y sont pas, ça, on en sait quelque chose, on les a empêchés.
Ah oui, c'est vrai, pardon. Autant pour moi.
Patron d'une nouvelle discothèque gay à Lyon, je m'appelle Vincent et j'invite Stevie à venir avec son ami. La discothèque s'appelle le Crazy à Lyon. Voilà, vous êtes invité, Stevie, pour l'inauguration. Vous prenez combien pour une inauguration?
Je fais pas ça, généralement, j'y vais pour m'amuser. Ah. Gratuitement.
Ah, c'est gratuit, en
fait. C'est ce qu'ils veulent.
Ils peuvent m'offrir un verre, hein.
C'est ce qu'ils veulent. Que vous y alliez gratuitement, vous savez.
Bah pourquoi pas.
Avec Lyon. Fabrice en couple.
Oui, il faut que je vois pour ça. Non,
parce qu'il y a des rumeurs sur vous. Hein.
De plus en plus, oui.
Avec Boubounet.
Il paraît que dès qu'il a deux verres dans le nez, ouais,
il est vite gay.
Ouais. Et pompette.
Plus j'écoute votre émission, plus Gaspard Proust me fait frissonner. J'étais déjà accro à la sensualité de sa voix. Je l'ai enfin vu physiquement. Et je n'ai pas du tout été déçu. Quel plaisir, je vous en supplie, Laurent, gardez-le pour la saison prochaine. C'est signé Audrey, vous la connaissez?
Si tu es là.
C'est vrai que...
Qu'est-ce que vous avez dit?
Si tu es là, il a dit.
Non, parce que je sais qu'on est filmé, alors ceux qui seront en podcast pourront voir effectivement que j'ai un physique extrêmement avantageux et qui ne demande qu'à être...
mis en valeur.
Rempli. Admiré.
Voilà.
Oh, j'ai pas plus de mails que ça, c'est un peu pauvre.
Oh, voilà, heureusement que c'est la fin de la saison.
C'est la fin de saison, on fait les...
Heureusement, on a Céline au téléphone et Nicolas. Bonjour Céline, bonjour Nicolas.
Bonjour Laurent.
Vous allez bien Céline?
Très bien, merci.
Vous êtes à Abrechvillers, en Moselle.
Tout à fait.
Et vous faites quoi là-bas?
Alors, je suis professeur d'anglais.
Ah, Arzo.
Oh, non.
Et oui.
Et en quelle classe pour...
Et en quelle langue?
Alors, ben, justement, c'est un peu le problème. Je suis professeur d'anglais et mes élèves sont en BEP et en bac pro.
Ah oui? Et ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à l'anglais?
Pas trop.
On peut vérifier quand même si vous parlez bien anglais, Céline, c'est possible?
On peut essayer, Laurent.
Alors, on commence une petite conversation tous les deux?
Ah, bien.
Pourquoi pas?
Bon, alors, parfait.
Can I fuck you in?
Ah non!
No, I'm married. I'm sorry, I'm married.
Ah, you are married?
Oh, it is not a problem for us.
Yeah.
And is your husband beautiful?
He's very tall.
Ah, yeah, tall. Yes. Yeah.
Ah,
France.
Have you children?
No, not yet.
Have you morpion?
Céline, n'écoutez pas Fabrice. Vous allez affronter Nicolas qui est à Vitry-sur-Seine. Nicolas, ça va bien?
Ça va très bien.
Oh, il est tout cool, Nicolas.
Hein? Mais oui, il est tout cool.
C'est les vacances bientôt, Nicolas?
Ah, très bientôt, parce que je fais le même métier que l'autre candidate.
Vous êtes prof d'anglais?
À Vitry-sur-Seine?
Parlez entre vous, tiens. Tentez une conversation entre vous, qu'on s'amuse un peu. Commencez, Céline. Posez des questions à Nicolas et Nicolas va vous répondre.
Good afternoon. How are you?
I'm not too bad. And you? And yourself?
Yeah, I'm fine. I'm ready to succeed.
Ouais. On sent laquelle fait les BEP, l'autre le lycée.
Si on dirait les cassettes quand vous écoutez. Ouais,
on a l'impression qu'on écoute à 6000.
Laisse-moi.
Céline, Nicolas, je vous emmène sur Internet pour peut-être que vous puissiez gagner le vélo électrique intelligent que Europe 1 et Matra comptent vous offrir. Mais pour ça, il faut me dire justement ce que Tony Hedbone, 26 ans, vend sur Internet. Qu'est-ce que Tony Hedbone, 26 ans, vend sur Internet?
Sa virginité?
Non, ça c'est déjà fait.
Oui, une femme l'a déjà fait.
Oui.
C'est lié à la Coupe du Monde?
Non, du tout.
Son foie?
Mais Tony Hedbone est britannique en tout cas.
Une dent?
Une dent,
Bondrier. C'est un aventurier?
Du tout.
Ça fait partie du corps humain?
Son corps.
C'est un service.
Pas un service.
Ses cheveux?
Mais ça fait partie de son corps, on peut dire.
Il vend sa peau?
Sa peau, non.
Il s'est fait amputer d'une jambe et il vend la jambe.
Il s'est tatoué.
Pardon ?
Il s'est tatoué.
Non plus.
Ça se détache de son corps ?
Oui, on peut dire. Enfin,
c'est genre l'appendicite ?
Non,
ça tombe de son corps ou ça jaillit de son corps, plutôt ?
C'est plutôt ça.
Ça jaillit ?
C'est son sperme. Soit c'est spermatozoïde.
Attends,
c'est carie.
Non.
Son urine ?
Non. Céline ? Pardon ? Elle donne son lait. Elle vend son lait maternel. Bonne réponse de Céline. Tony, c'était là le piège. Tony Hedbone est une femme, elle a 26 ans et elle produit trop de lait maternel, si bien qu'elle a eu l'idée, après la naissance de son premier enfant, de mettre en vente l'excédent de sa production de lait sur le net. Pourquoi vous marrez, Stevie?
Non, parce que ça me rappelle ma maman, c'était pareil.
Ah oui?
Ma maman, elle était très très fine.
Enfin, je veux bien que vous soyez jeune, mais ça m'étonnerait qu'elle vende son lait sur Internet.
Non, quand je suis né en 1980, ma mère, elle avait tellement de lait qu'on voyait les parcelles à travers la peau, il n'y avait pas de soutien-gorge à sa taille, on lui bandait la poitrine, etc. Et elle donnait du lait maternel parce que ça n'arrêtait pas, c'était à foison.
Putain, je vais vomir.
Tu vois, ça n'arrêtait pas, ça coulait. Donc,
une femme fontaine de lait, quoi.
Elle vous a allaité alors.
Ah oui, moi j'en ai bu.
Mais vous continuez.
Oh mon Dieu.
Vous avez commencé par le lait maternel et puis après le lait paternel.
Voilà, en quelque sorte.
La treilleuse, on l'appelle.
Je me demande, une femme comme ça qui va en vacances quand il fait chaud, est-ce que ça devient pas du yaourt?
Est-ce que ça tourne?
Je sais pas, on peut peut-être faire du beurre avec ça, non? Si on met ça dans une centrifugeuse.
Ouais, bien sûr, de la mozzarella aussi.
Bien sûr.
Céline, c'est vous qui avez gagné le vélo Europe 1 Matra. Vous êtes contente?
Ah, très très heureuse.
Are you happy, Céline?
Oh, yeah, I'm very glad to win today. Thank
yes.
you very much.
And you, Nicolas, you are disappointed.
Disappointed.
Mais non, il est au rendez-vous, il est alors.
Non, c'est disappointed.
Ah oui, non, mais il y avait un jeu de mots en anglais.
Oh putain, mec, il fait des jeux de mots.
Bravo, thank you, Gaspard. You understand me. On vous embrasse, Nicolas.
Merci.
Oh, il est quand même un peu déçu, Nicolas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Nicolas? Lui offrir des places, tiens, pour Gaspard Proust à l'Européen. Hein, vous êtes d'accord?
Ah, déjà? Ouais,
bah oui, au mois d'octobre, ou pour Fabrice Eboué au Bataclan.
C'est complet. Non, ah non, il reste encore un peu de place. Vas-y, prends-le.
Vous êtes d'accord, Nicolas?
Avec plaisir.
Vitry-sur-Seine, c'est à côté. Alors voilà, on vous offrira des places pour Gaspard, pour Fabrice Eboué, pour Michael Gregorio. Un lot de place, d'accord?
Ah, ben merci beaucoup, c'est très très gentil.
Et un fromage de la mère de Stevie également.
Et le iStep Tour, je sais pas comment on doit dire, ce vélo électrique intelligent offert par Matra et Europe 1, eh bien on vous l'envoie à Bresch-Villers en Moselle, Céline.
Eh ben merci beaucoup.
Beautiful bicycle for you. Kiss you, Céline.
Très bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. J'espère que vous allez bien. On continue à s'amuser avec Laurent Ruquier. Profitez bien, petit conseil, de cette émission puisque c'est la dernière de la saison. Pas d'inquiétude, hein. Les meilleurs moments arrivent dès lundi sur Europe 1, bien entendu.
qui vient étonnamment de reprendre la chanson de Renaud « Dès que le vent soufflera ».
Dès que le vent soufflera.
Oui, c'est pas tout à fait comme ça la chanson, mais là c'est une bise, vous voyez.
Et que le vent soufflera, je repartirai.
Voilà. C'est pas les victimes de la tempête Xynthia ?
Non.
Alors est-ce que c'est une femme ?
Non.
C'est les prêtres ?
Donc c'est un homme.
Non.
Un enfant ?
Non.
C'est pas les prêtres ?
Non. Un animal ?
Oui.
Un animal ?
Un perroquet.
Non.
C'est le papa
pingouin. Un ménate.
Mais il chante pas alors, il fredonne.
Si. Le papa pingouin ?
Qui étonnamment, je répète la question, écoutez-la bien, qui étonnamment vient de reprendre la chanson de Renaud « Dès que le vent soufflera ».
Un dessin animé ?
Oui.
Shrek.
Ah.
Alors, pas Shrek.
L'âne
de Shrek. Bonne réponse de Fabrice Éboué et Jérémy Michalak.
Ah ouais, mais c'est fugace, hein.
Comment
je l'ai vu, je m'en rappelais même pas. Tu vois.
C'est dans Shrek 4.
Ouais, ouais,
vous l'avez vu, Shrek 4 ?
Oui, je l'ai vu, Shrek 4.
C'est un film européen.
Ah oui, ah bon.
Donc c'est un très bon film.
C'est un très bon film, un peu lent.
C'est un très bon film qui sort mercredi prochain. Shrek 4. J'ai pas vu passer les trois autres, moi. Alors,
celui-là, vous allez le voir.
J'ai vu le 1, en tout cas.
Ouais.
J'ai vu Shrek 1.
Ouais.
J'ai vu.
Le 2.
Voilà,
Shrek 2.
J'ai vu François Shrek 2, qui vient d'être réélu. Non, mais c'est vraiment bien, Shrek, alors, Stevie. Vous.
J'ai jamais vraiment regardé. Si, j'ai vu le 1.
Vous aussi.
J'ai du mal avec les nouveaux dessins animés comme ça. Moi.
Vous êtes sur les anciens, vous plutôt.
Non, ouais, les anciens. Ouais.
Vous faites Mickey ?
Non, pas Mickey, La Belle au Bois Dormant.
Les anciens Walt Disney.
Ouais, j'aime bien les anciens.
Les trucs de princesse, quoi.
Blanche-Neige.
Ouais, j'adorais Princesse Sarah aussi, mais c'était pas Disney.
C'était quoi, sa Princesse Sarah ?
Je sais pas.
Un vieux dessin animé. Ah, tu connais Gaspard ?
Pas du tout. Pourquoi tu connais ça ? C'est très gênant, là, évidemment.
Pourquoi Gaspard ?
Dorothée, attends, tu vas
voir. Et alors ?
Que j'ai si t'as dit une fois que tu
viens. Ah, bah non, t'es suisse, toi.
Qui vient d'écrire 3000 Sex Unansichtag ?
Schumacher.
3000 Ce qui veut dire ?
C'est une chanson.
300.
Qui vient d'écrire 3000 Sex Unansichtag ?
369 jours, c'est ça que
combien
ça veut dire ? 369 ?
Non, un peu plus.
Tokyo Hotel ?
Non. Qui vient d'écrire 3000 Sex Unansichtag ?
Nina Hagen.
Non. Ça pourrait, c'est pas bête.
Mais c'est une chanson allemande ?
C'est pas une chanson allemande.
3690 jours.
C'est un livre allemand.
Oui. Qui vient d'écrire j'adore parler allemand. Qui vient d'écrire 3000 Sex Unansichtag ?
Le président allemand ?
Ah, c'est pas quelqu'un, c'est un quelqu'un qui a été enlevé, non ?
Natacha Campouche.
Natacha Campouche. Et pouvez-vous me rappeler le titre de son livre ?
3690 Tage.
Voilà.
Exactement, ça veut dire 3096 jours, c'est le temps qu'elle a passé séquestrée. Elle a aujourd'hui 22 ans et elle va tout raconter dans son livre qui sortira le 8 septembre prochain aux éditions List Verlag. Vous pouvez d'ores et déjà le commander sur internet si ça vous intéresse. Fabrice, c'est pour vous ça, ce genre de bouquin.
La version allemande, je vais me régaler. Ouais.
Non, mais ça va être traduit en français. Et savez-vous quelle est la comédienne qui pourrait jouer, incarner Natacha Campouche à l'écran dans un film prévu d'ici 2011.
Bah, elle aurait été plus jeune, j'aurais bien vu Jodie Foster.
Non, mais c'est pas Jodie Foster.
Judith Godrèche ?
Non, pas Judith Godrèche.
Mélanie Laurent.
Ce sera déjà assez triste comme ça, oui.
Mélanie Laurent ?
Mélanie Laurent, non.
Mais c'est une Française ?
Ce n'est pas une Française.
Jeanne Moreau ?
Non.
Elle serait restée enfermée un peu plus longtemps, alors.
Mais non, une Américaine ?
C'est vrai que quand on l'invite, ça sent la cave. Hein.
Est-ce que c'est une Anglaise, une Américaine ?
C'est une Américaine.
Paris Hilton ?
Non. T'imagines Paris Hilton jouer Natacha Campouche ?
C'est dingue, toi.
Non.
Elle est très connue ?
Ah, très très connue.
C'est une petite blonde aussi ?
C'est une blonde.
C'est une Américaine ?
Et c'est une Américaine.
Dans les Américaines blondes, excuse-moi.
Et elle pourrait incarner Natacha Campouche dans un film tiré de son histoire qui sortirait en 2011.
Nicole Kidman ?
Non.
Non, il faut qu'elle soit très jeune.
Elle a 20 ans.
Elle n'est pas très jeune.
Elle a quel âge ? 30 ans.
René Machin, là ?
Zellweger ?
René Zellweger, non, même pas.
Non, mais remarquez, elle n'est pas non plus, elle n'a pas 15 ans. Hein,
Liz Taylor ?
Christina Aguilera.
Liz Taylor.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui va jouer l'homme, en fait, parce que c'est là.
Comment elle s'appelle
Christina Aguilera, ça irait bien.
Non.
On l'a vu récemment dans un film au cinéma ?
Oui, c'est une comédienne, vous savez, on les voit, à part vous, très régulièrement au cinéma.
Kirsten Dunst.
Comment ?
Kirsten Dunst.
Ah, celle qui jouait Marie-Antoinette. Ah,
ouais.
C'est pas mal, ça,
c'est
mais
pas
c'est
elle.
Pas ça. Non, 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 non.
Scarlett Johansson.
Non plus.
L'actrice allemande qu'on voit en France de temps en temps, là, qui est avec Guillaume Canet.
Ah,
ah oui.
Diane Kruger.
Diane Kruger.
Diane Kruger.
C'est
pas
ça
du tout.
Bon, bah, on va pas chercher tout.
On a fait le tour,
une
là.
Petite jeune, blonde. Ouais, blonde, elle est blonde.
Ce serait bien qu'on passe un peu de musique, alors si vous pouvez.
C'est quelqu'un
trouver...
qui a été séquestré, Raymond Domenech, peut-être.
Est-ce qu'elle chante aussi?
C'est Johan Gourcuff.
Est-ce qu'elle chante? Ouais,
c'est Johan Gourcuff. Un film où Johan Gourcuff serait dans une cave.
Laissez-moi sortir!
Avec Franck Ribéry comme geôlier.
Ouais.
Quelle horreur.
Film d'horreur.
Est-ce qu'elle chante, ta blonde?
C'est Devon.
D'abord, j'ai pas de blonde à moi. C'est qui vous dites?
Devon.
C'est qui ça?
C'est une star du X américain.
Non,
spécialiste.
Alors, elle chante ou elle chante pas?
Non, elle chante pas.
D'accord.
Oh là là.
Bah, on va s'arrêter là.
Bon, elle chante.
Merci, mesdames et messieurs, d'être passés.
Bonne chance, cette femme.
Vous êtes fous.
Bon,
il n'y a pas de réponse.
Bon après-midi.
Elle est blonde.
Non, mais dites-le si vous avez envie de partir tout de suite avec Stevie. Ils sont fous, ils sont devenus fous.
Ah non,
ces
là, moi, c'est le dépôt de bilan, j'en veux plus.
Comment veux-tu qu'on se concentre? C'est pas possible, arrêtez.
Alors écoutez, je peux vous dire que c'est une actrice en tout cas qui a battu des records d'entrée au cinéma.
Dans Titanic?
Ah oui,
oh, j'y ai pensé.
Kate Winslet.
Bonne réponse de Stevie.
Mais dis donc, elle est pas si jeune que ça, Kate Winslet.
Non, non, mais
elle est britannique, elle est pas américaine.
Elle est britannique?
Ah oui, il faut bien poser la question.
Elle est anglaise et ensuite elle est pas si jeune que ça.
Elle est anglaise, mais elle joue dans des films américains. Et c'est pour ça que c'était pas bête d'ailleurs de dire
Kirsten Dunst, parce que
finalement elle aurait eu une spécialité des rôles autrichiens, voyez, entre Marie-Antoinette et Natacha Campouche. Il manquait plus de jouer Niki Lauda dans un prochain film, et c'était bon. Mais là, non, il s'agit de Kate Winslet. C'est une bonne réponse. Et grâce à vous, Stevie, on peut enfin écouter Raphaël et son Terminal B.
On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés. Aujourd'hui, il y a Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Motreau et Gaspard Proust.
Qu'est-ce qui fut créé en 78 et qui n'aura pas lieu cette année pour la première fois? Qu'est-ce qui fut créé en 78?
Moi, je sais ce que... La Garden Party de l'Élysée.
La Garden Party de l'Élysée. Bonne réponse de Philippe Alfonsi et Gaspard Proust.
Oui, des économies.
Et pourquoi?
Ça s'appelle un contre-feu.
C'est Giscard qui avait lancé et créé la Garden Party de l'Élysée. Cette année, Nicolas Sarkozy a décidé de faire des économies. Pourtant, 8000 invitations avaient été lancées pour assister aux festivités.
L'année dernière, cela avait coûté 750 000 euros. Et comme il faut faire des économies, montrer l'exemple et surtout faire oublier les problèmes de M. Wurst, eh bien voilà, on supprime.
C'est dommage parce que je me disais, tiens, peut-être que cette année je vais être invité à la Garden Party.
Ah oui,
c'est ma première Garden Party. C'est ma première Garden Party. C'est ma première Garden Party.
Stevie a déjà été invité ou pas?
Non, jamais à la Garden Party.
C'est pas vrai.
Soirée privée, chérie. C'est tellement plus sympa.
La princesse.
Ouais, quand même pas des mouches.
Ah, Alfonsi, vous avez déjà dû aller bouffer gratos ou à la Garden Party, Alfonsi?
Depuis que Nicolas est là, certainement pas, non.
Non, mais avant.
Avant.
Non, jamais. Non. J'avais pour principe, je connaissais bien Mitterrand. Ouais. Il m'aimait bien, mais à partir du moment où il a été élu, je n'ai plus jamais voulu le rencontrer. Ça fait du bien des choses comme ça.
Mais pourquoi? Loser, toi,
parce qu'il ne faut surtout pas... Non, il ne faut pas s'apporter des hommes de pouvoir, ça détruit. T'as pas remarqué? Fais attention à toi.
Oui, enfin, moi, je suis pas journaliste comme toi. Moi, je m'en fous.
Il a rien à perdre. Il couche pas non plus tous les soirs avec Sarkozy, Stevie. Vous l'avez pas vu depuis combien de temps, le président?
Ça fait un an et demi.
Ah, voilà.
Un an et demi.
Tu te sens mieux?
Mais tu le tutoies, c'est un ami proche. Hein.
Non, je peux pas le tutoyer.
Tu fais la bise?
Oui. Vous êtes cinglé.
Et Carla, vous l'avez déjà rencontrée?
Non, pas Carla.
Ah.
À chaque fois, elle était seule.
Quand tu vois Sibu, il va être tout seul à chaque fois.
Ah si, pardon, j'ai vu Carla quand j'y suis allé pour le pape. Elle
pour
était
le
là,
pape.
Carla.
Pour le pape?
Aller voir le pape à l'Elysée?
Oui, bah oui, je suis catholique.
Et alors,
tout ça est d'une logique.
Bah ouais, c'est apparent.
Tu vois pas quand même le pape?
Non, mais je plaisante.
Et tu lui as fait la bise au pape?
Non, je l'ai pas vu de loin.
C'est vrai que...
Il a dit, est-ce que vous pourriez me prêter votre robe?
Ouais, j'adore.
Gaspard?
Mais dans ce monde qui a perdu tout sens, Stevie est un repère. C'est
Qui a dit en 10 ans, qui a dit à propos de qui en 10 ans à ses côtés, j'ai beaucoup appris, c'est mon université à moi?
Stevie à propos de Laurent Ruquier.
Bonne réponse, Isabelle Rosemont.
C'est pas vrai.
Oui.
tu l'as dit comme ça.
Ah oui, mais non, mais je sais que Stevie est lèche-botte, mais je pensais pas que c'était pour de vrai.
Je suis tombé dans, hier sur une interview dans François avec ce titre. Déjà, le titre.
Oui, c'était racoleur.
Hein. Laurent Ruquier, quoi, est très séduisant. Mmh.
Arrêtez, Gaspard, vous moquez pas. Hein. Ça m'a fait plaisir.
Non, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai dit tout ce que je pense.
Mais
c'est pas une histoire de lèche-cul, quoi que ce soit. C'est que Laurent m'a apporté plein de choses. Et grâce à lui.
Moi, j'ai bien aimé cette phrase. En 10 ans à ses côtés, j'ai beaucoup appris. Ruquier, c'est mon université à moi. Et là, moi, tu vois, je pensais pas être à ce point.
Universitaire.
Universitaire. Je dois dire.
Le loft, c'était un peu ton BEP, quoi. C'était.
Ton BEP, c'est. Là, non, mais vous êtes drôle dans les interviews quand même.
Pourquoi?
Parce que faut dire que les journalistes sont un peu salauds avec vous. Là, c'est Gaëlle Guittard qui vous a interviewé pour François. Vous l'avez lu l'interview ou pas?
Oui, j'ai lu. Mais est-ce qu'il y a? Elle m'a posé plein de questions et puis elle a fait le résumé.
Oui, c'est le principe.
Toutes les questions. Non, mais sur plein de questions, elle a tout résumé en une question une réponse.
C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça.
Alors après une phrase, copier-coller, puis mais bon.
Alors est-ce que vous faites ce genre d'émission pour prouver que vous en avez dans le ciboulot? Elle vous demande. Alors, Stevie dit, je ne suis pas calculateur. Je ne fais pas les émissions de quiz sur l'actualité dans un esprit de compétition. J'adore les quiz, en particulier ce qui se rapporte à la géographie, l'écologie et la typographie, la topographie.
Et puis j'ai surtout parlé de géologie aussi, ce qui n'est pas dans l'article, mais bon, c'est pas grave.
Ah, vous allez jouer un castrat à la rentrée ?
Oui, peut-être.
C'est dans l'article. Hein.
Oui, c'est dans l'article, oui.
Dans
normalement,
un film.
Oui. Non, dans.
Et tu feras un jour un rôle de composition ou tu préfères rester comme ça?
Un castrat, c'est plutôt.
Mais tu vas pas chanter quand même?
Non, je vais pas chanter.
Vous jouerez un castrat dans la pièce Operia Feria.
Alors c'est Opera Seria, c'est trompé.
Ah, déjà.
C'est Opera Seria, voilà.
De Christophe Mirambeau, mise en scène par Olivier Benezèche.
Voilà.
Et c'est quoi alors cette pièce racontée?
Je peux pas. Plus tard.
C'est un boulevard?
Non, c'est pas du tout un boulevard, c'est une comédie dramatique.
À votre université, vous pouvez le dire quand même.
En tête à tête.
Il y a le doyen de la fac qui est là. Non, mais t'as passé des essais, t'as eu un texte et tout?
Oui,
tu as refait nous le texte.
Non.
Et le castrat, il parle comment? Il parle normalement ou il est...
Comme vous, Michel Ac. Parce que normalement, un castrat, il parle comme ça, un castrat.
Non, pas forcément.
Ah, mais non, c'est quand il chante que
c'est
ça s'entend.
C'est quand il chante. On leur coupe les testicules à l'âge de 10-11 ans.
Ça va alors.
D'accord.
Donc ils muent pas.
Et ce qu'il y a, c'est qu'ils gardent leur gorge d'enfant, en fait.
Ouais.
Ils gardent leur gorge, d'enfant. En revanche, ils ont une cage thoracique d'homme. Donc ils ont vachement de souffle dans un petit passage, ce qui fait.
Une sorte de vuvuzela.
Non, mais ils peuvent faire des notes très hautes et très très longues, en fait.
Voilà. Oui, c'est très curieux.
Mais vous allez les faire ces notes là ou pas?
Non, il a dit
qu'il chanterait pas. C'est dommage.
C'est crétin quand même d'avoir coupé les couilles aux gamins comme ça autrefois, parce qu'aujourd'hui vous avez les hauts de contre qui chantent exactement comme les castrats d'autrefois.
Non.
Et quand ils chantent,
Stevie a dit quand ils chantent,
c'est magnifique. Ils ont une voix très aiguë.
C'est pas pareil.
Et quand ils parlent dans la vie, ils ont une voix très grave la plupart
du
temps.
Philippe, c'est pas vrai parce que après les castrats, quand on les abat, ils ont la même chair que le chapon. Donc.
D'autres questions dans un instant dont on va se gêner.
On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier
jusqu'à 18h30.
On va gêner se poursuit sur Europe 1. J'ai quelques secondes, comme Laurent vous parlait tout à l'heure de Shrek 4, pour vous prévenir que Europe 1 lui a carrément créé un mini-site dédié à ce film. Notez bien l'adresse shrek4.europe1.fr. Vous allez évidemment retrouver toutes les images de l'ogre vert, de Tracassin et du monde déjanté de Fort Lointain. Il y aura aussi des interviews et une bande annonce exclusive du film. Alors n'hésitez pas à aller dès à présent sur shrek4.europe1.fr. Je laisse la place à Laurent Ruquier, à ses complices, pour On va gêner.
Isabelle Geffroy refuse régulièrement une suite au Ritz. Dans quelles circonstances?
Est-ce qu'il fait trop chaud?
Non.
Qu'elle s'appelle Isabelle Geffroy, c'est
Isabelle Geffroy refuse régulièrement une suite au Ritz. Dans quelles circonstances? Et là, je dois dire, je suis assez content de ça.
Alors, la question, c'est pourquoi vient-elle au Ritz régulièrement, finalement?
Un peu.
Pour la piscine?
Non mais attends,
pour la piscine,
c'est-à-dire
parce que c'est la plus belle piscine de Paris.
Ah oui, racontez, moi je suis jamais allé au Ritz.
Ah moi non plus.
Ah bah comment vous
bah
savez
alors...
Ah bah parce que tout le monde me dit viens au Ritz, j'aime pas les piscines publiques, alors j'y vais pas.
Tout le monde.
J'aime pas les piscines publiques, le Ritz.
Tout le monde me dit viens au Ritz.
C'est pas la piscine municipale de Nogent, quoi. C'est.
Non, j'ai au Ritz au bar, mais j'ai pas à la piscine.
Ah oui.
Est-ce que c'est le vrai nom d'une personnalité qu'on connaît sous
Isabelle Geffroy. Ouais. Exactement.
Française.
Française.
Mais Isabelle Huppert.
Non.
Mais c'est son vrai nom ou c'est
Isabelle Geffroy, c'est son vrai nom.
Ah, mais on la connaît sous
son nom d'artiste.
Isabelle Nanty?
Non.
Ah, voilà. Est-ce que son prénom est
comment
Patrick Bruel.
Est-ce que son prénom est toujours Isabelle, même avec son pseudo?
Non.
C'est complètement autre chose.
Oui. Non, son pseudo fait penser à son nom quand même. Ah. Isabelle Geffroy.
Ce n'est pas Véronique Courgeot, hein?
Non. C'est pas parce qu'elle dit Geffroy.
Ça pouvait.
Isabelle, là?
Je t'imagine un
peu. Isabelle Geffroy. Non, mais alors attends, on lui propose une suite sans qu'elle la demande, en fait.
Ça serait drôle quand même que.
Mais est-ce que
Mme Courgeot ait à nouveau des enfants, tu vois, une petite garçon qui les appelle Angèle et Geffroy.
Oh là là. Mais l'applaudissez pas! Oh là là, vous l'encouragez, là.
C'est une blague estivale, c'est.
Angèle et Geffroy Courgeot. Oh. C'est peut-être des noms qui existent, écoute.
Geffroy, oui, ça existe.
Oui, bien sûr.
Angèle aussi, tu sais.
Bon, Isabelle Geffroy.
Bon, attends, est-ce qu'on lui propose cette suite ou c'est... On lui propose pas.
Évidemment, c'est une astuce dans la question. Il faut que vous réfléchissiez un petit peu. Il y a un peu de jugeote, comme
Elle a une suite à son nom dans
pas du tout.
C'est une chanteuse?
Oui. Isabelle Geffroy refuse régulièrement une suite au Ritz.
Céline Dion?
D'ailleurs, elle refuse aussi des bijoux de chez Chanel.
Vanessa Paradis?
Non.
Ben non.
Mais non, ça fait penser à Geffroy.
C'est des cadeaux qu'elle refuse.
Eh oui, elle ne veut pas de limousine non plus, Isabelle Geffroy.
Geneviève de Fontenay?
Mais non, enfin.
Parce qu'elle en a déjà?
Non, c'est simplement parce que...
Elle est vieille, cette dame.
Mais non, pas du tout.
Si elle est morte?
Très jeune, pas du tout.
Marion Cotillard?
Non.
Elle est très jeune.
Et pourquoi pas de cadeaux?
Parce que c'est dans sa chanson.
Ah, c'est dans sa chanson.
Ah, Juliette?
Non.
Camélia Jordana?
Non. Ah, c'est vrai que Camélia Jordana?
Non, je veux pas aller au bar.
Bah, c'est du même genre.
Une chanteuse jeune.
Une chanteuse jeune française.
C'est pour un enchaînement, française. C'est un disque européen.
Amandine?
Non.
C'est en français ou c'est en anglais?
C'est noyé, Amandine.
Hein, c'est en français ou c'est en anglais les paroles de la chanson?
C'est en français, monsieur.
D'accord.
Ce qu'il a fait connaître.
Je ne vous refais pas le même coup que Frankie Ghost de Hollywood.
On sait jamais.
Alors là. Laurie.
Laurie, mais enfin, elle a disparu sous Garou depuis je sais pas combien de temps.
Chaim
non plus. Non.
Je ne veux pas.
Ça vous dit quelque chose?
Travailler.
Ah non, ça c'est vieux ça.
Ouais,
non.
Mais oui, mais c'est, ça doit être dans le même genre.
Non.
Et dans les paroles, elle dit non, je veux pas aller au Ritz, j'aime pas les cadeaux, je veux pas les sacs Chanel.
Putain,
qui chante ça?
Elle dit donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Et elle s'appelle.
Diaz.
Jazz.
Quoi?
Jazz.
Zaz.
Zaz.
Zaz. Zaz.
Il y a quelqu'un qui vous a soufflé, vous?
Bah, je sais pas, c'est les musiques qu'on va écouter après, donc j'en conclus que c'est elle.
Comment vous savez ça?
Tu l'as dit tout à l'heure, on va mettre déjà Yazaz,
je vois quoi après.
Ah bon?
J'avais pas fait la radio.
Et donc, toi, vous avez entendu ça?
Bah, toi, le tour dans les ordres pour la régie.
Ah ben parce que vous entendez ce que je dis à la régie.
Non, mais j'ai lu sur tes lèvres.
Toujours. Vous lisez sur mes lèvres. Mais où j'en suis? Mais où j'en suis?
C'est vrai. Enfin, les private jobs de gars dégueulasses, quoi. C'est scandaleux.
Je crois qu'il y a un rendez-vous dans les toilettes.
C'est purement scandaleux.
Zaz, évidemment, c'est le pseudo qu'a pris Isabelle Geffroy. C'est cette jeune chanteuse qui cartonne avec ce tube Je veux, dans lequel vous allez l'entendre. Elle dit donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas.
De l'info, de l'humour, de l'actualité, c'est ça les après-midi sur Europe 1. C'est On va gêner avec Laurent Ruquier.
Gary Brooks Faulkner est aujourd'hui en prison. Pour quelle raison qu'a-t-il voulu faire?
C'est l'auteur?
Quoi, quel auteur?
L'auteur de littérature qui s'appelle Faulkner.
Ah non, Gary Brooks Faulkner.
Je n'ai pas compris la question.
Il est en tôle, pourquoi?
Voilà, merci Isabelle Motreau.
Je t'en prie.
Gary Book.
C'est terrible parce que quand je parle pas, il lit sur mes lèvres et quand je parle, il comprend pas. Qu'est-ce que je vous dis?
C'est un étudiant. Hein.
Donc il a fait quelque chose.
Gary Brooks Faulkner est en prison. Il n'est pas en prison dans son pays, hein, Gary Brooks Faulkner. En fait, il est américain, hein, Gary Brooks Faulkner, et il est en prison loin de chez lui.
En Afrique du Sud?
Non.
En France?
Non.
En Afghanistan?
Oui.
Non.
Exactement.
Ah, et c'est, il a pas, c'est pas lui qui a fait une erreur grave, qui a tiré sur quelqu'un ou qui est responsable du meurtre de 6 Afghans?
Non, du tout.
Moi, je sais, c'est le mec qui est parti pour essayer de capturer tout seul Oussama Ben Laden.
Bonne réponse de Jérémy Michalak. Exactement. Gary Brooks Faulkner est parti tout seul chasser Ben Laden.
Ouais, mais il avait un couteau.
Oui, mais pourquoi il serait en prison? Et pourquoi il est en prison alors?
Parce que les autorités pakistanaises ont préféré l'arrêter. Il était en possession d'un pistolet, d'un poignard et d'une épée. Et que,
si vous voulez,
il n'a pas forcément.
Il
n'a pas forcément toute sa tête.
Il avait un briquet aussi.
Voilà.
Allez, j'y vais tout seul. Je vais chercher Ben Laden. Non,
mais c'est ça. Mais c'est exactement ça l'histoire.
C'est incroyable.
C'est drôle. Il a été arrêté à Chitral, où il est arrivé le 3 juin dernier. Il a quitté son hôtel sans en informer la police, alors que normalement là-bas au Pakistan et surtout dans cette région reculée du Pakistan, tout étranger se voit obligatoirement assigner une escorte policière s'il veut se déplacer. Lui, il a expliqué qu'il s'apprêtait à se rendre dans la province afghane du Nouristan, juste de l'autre côté de la frontière, pour arrêter Ben Laden. Et voilà, il y croyait. Il faut dire qu'il y a quand même 25 millions de dollars en jeu pour qui réussirait à capturer Ben Laden. Alors lui, il y croit. Il se dit, tiens, bah, pourquoi pas moi.
J'ai des fins de mois un peu difficiles, allons-y.
Voilà, c'est une idée d'aller chasser Oussama Ben Laden.
Avec une photo, il demandait aux gens, vous connaissez cet homme-là?
Vous l'avez déjà vu par ici.
Non, mais attention, hein, il est assez costaud quand même, parce que c'est un adepte de Hapkido, c'est un art martial coréen, et donc il est parti dans les montagnes à la recherche de Ben Laden. On le surnomme le ninja américain. Pourquoi vous m'avez, Gaspard?
Ah, mais j'imagine le pauvre homme.
Mais non, c'est pas un pauvre homme. Son
bah,
frère,
à mon avis,
son frère dit qu'il est pas fou du tout. Le frère,
non. C'est son frère. Hein.
Le frère de Gary Faulkner, qui s'appelle Scott Faulkner, dit c'est même moi qui l'ai conduit à l'aéroport de Denver le 30 mai.
Il va pas mieux que lui.
Ils ont défini la piste. Oh, la
famille. En cours de route, il m'a expliqué pourquoi retrouver Oussama Ben Laden et qu'il allait le tuer. Et je n'arrive pas à oublier les attaques du 11 septembre. Voilà, c'est quelqu'un de très passionné. Et en tant que chrétien, il n'a pas digéré qu'Oussama se moque de son pays après le 11 septembre. Il avait aussi l'impression que les militaires ne faisaient pas assez d'efforts pour rechercher Ben Laden. Alors il s'est dit, bah, puisque c'est ça, j'y vais moi-même.
J'imagine en rentrée avec un coup de pied dans le Congrès américain, comme ça, avec la tête de Ben Laden, tu sais, droit comme ça. Je l'ai eu, je l'ai eu.
Et c'est pas lui, tu sais.
C'est le chauffeur de taxi.
C'est Christophe Ondelat en vacances là-bas, tu vois.
Ça avait rien à voir. C'est un bon scénario de film. Hein.
Ah non, bah, ça, c'est un super film.
Le mec, il part tout seul. Ah,
ça, c'est un vrai sujet. Ouais.
Mais chasser Ben Laden. Mais moi, je trouve ça formidable. Il faut des gens comme ça pour.
Mais oui,
parce que.
Pourquoi?
Mais pour avoir de l'espoir, pour y croire. Les gens sont résignés, résolus. Les gens n'ont plus de passion, n'ont plus d'envie. Regardez-moi, j'y crois encore.
Non, mais c'est vrai, si ça se trouve, dans une geôle, là, il va trouver l'amour de sa vie, quoi. On sait pas. Il va tomber amoureux de son geôlier. Ils vont s'enfuir ensemble sur une mobilette. Ils vont finir à Cancun, je sais pas.
Et là, ils vont rencontrer Ben Laden. Et
comment il s'appelle? Le Molla qui s'était
enfui. Le Molla Omar.
Qui s'était enfui en mobilette. Ça, c'est quand même génial. On n'a jamais retrouvé la mobilette.
Jamais.
Le Molla Omar, je me demande s'il n'est pas mort.
Si, je crois.
Non, non, ils étaient ensemble. Mais c'était un couple avec Ben Laden. Ils étaient ensemble.
Avec Fred?
Non, c'était un couple homo avec Ben Laden.
Un couple homo.
Ouais, mais ça a pété, je crois.
C'était les 69 les plus poilus de l'histoire.
Oh non. Il nous écoute peut-être.
L'angoisse.
Bon, on est dans quel sens?
Tu risques gros, hein, ce que tu viens de dire, vieux, là. Oh là.
Il est fou, putain, mais fou, hein.
Faire des tresses africaines de chaque côté, ça.
T'es vraiment con, Titoff, hein.
Cette valise rouge a été photographiée à de multiples reprises cette semaine. Mais pourquoi cette valise rouge a-t-elle été autant photographiée?
C'est la valise de Domenech?
Non.
C'est lié au mondial?
Non, du tout.
Aux retraites?
Non.
C'est une valise, c'est vraiment une valise ou c'est un objet symbolique?
C'est une vraie valise et elle est vraiment rouge.
Et il y a quelque chose d'important dedans?
Ah oui, monsieur.
De l'argent?
Oh, oh là, oh là, oh là. Bah, c'est les téléphones pour les États-Unis et la Russie.
Expliquez.
T'as la mallette avec les codes nucléaires, etc.
Et le pourquoi téléphone elle aurait été photographiée plus?
Oui, non,
cette
mais c'est un truc que tu peux pas photographier. De toute façon, c'est impossible.
Bah, ferme ta gueule alors.
Ouais,
est-ce que c'est pas la valise dans laquelle Ramalayad trouve toutes ses bonnes idées?
Comment vous l'avez appelé?
C'est la, parce que je prononce la sénégalaise. Non, mais j'ai... Ramalayad.
C'est une chanson de Maxime Le Forestier.
Ramala.
C'est une valise
rouge.
Est-ce que c'est la personne à qui elle appartient qui est importante?
Oh, elle appartient à personne vraiment, en fait, cette valise. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a tenue devant les photographes.
Bah, c'est pas l'argent de Bettencourt.
Non. Non.
Ah, c'est la valise où il y a dans laquelle il y a la Coupe du Monde. Non, dans une Malle Vuitton.
Ah oui, exactement.
C'est la valise RTL avec le logo.
C'est pas la valise RTL. C'est vrai que la valise RTL, il y a un logo rouge. Ça existe toujours, la valise RTL?
Non. Non, non.
Mais RTL, ça existe
non
encore
plus. Non.
Ouais.
Non plus.
C'est une valise remplie d'argent?
Oui, madame.
Et c'est, donc, c'est quelle monnaie à l'intérieur? Des dollars?
Symboliquement remplie d'argent.
Symboliquement?
Ouais.
Ah, de BP à la Maison Blanche.
Bah, je pense qu'on peut tenir jusqu'à 17h largement avec cette question.
Alors, c'est la somme. La somme qui est à l'intérieur représente.
Ah non,
oh là là,
ah, peut-être un truc génial, mais ça paraît improbable.
Attention, il a peut-être inventé quelque chose.
Oui.
Non, parce attention. Que vous savez, en Équateur.
Oh putain, c'est le vaccin contre la peste.
En Équateur, oui. Ils ont découvert un gisement de pétrole, enfin qu'il y avait énormément de pétrole sous la forêt tropicale. Non. Or, pour conserver la forêt tropicale, l'État équatorien demande 6 milliards d'euros à la communauté internationale. Ce qui lui aurait rapporté le pétrole pour laisser le terrain vierge.
On s'ennuie jamais avec ces milliards.
Alors, est-ce que le président de BP serait parti là-bas avec 6 milliards pour conserver la forêt?
Mais moi, j'ai une intuition.
Oui, allez-y.
Est-ce que ça serait pas le symbole des budgets britanniques?
Bonne réponse de Gaspard Proust.
C'est quoi ça?
Alors, il en arrive même à tricher.
Alors, regardez, elle est en photo dans Libération, la valise rouge. Et c'est la valise qui représente le budget britannique. Le Royaume-Uni se paye un budget de rigueur. Et cette semaine, le ministre des Finances, George Osborne, a annoncé la couleur, hausse de la TVA, réduction des aides sociales, gel des salaires des fonctionnaires. Et il a brandi la valise rouge, qui est une valise historique. On l'appelle la budget box, cette valise.
Évidemment,
et Gaspard le savait, car c'est un féru, il a travaillé dans une banque pendant longtemps.
J'adore les pages saumon du Figaro, je me lève avec ça, et c'est vrai qu'il y a tout dedans.
Ah oui.
Toute la réponse à toutes vos questions.
Qu'est-ce que vous faisiez dans la banque, dans le domaine de la banque?
Le même travail que Madame Wörth.
Oh, c'est quelle belle histoire, quel beau feuilleton.
Oh là là. C'est génial.
Après le foot, Mme Bettencourt, c'est génial.
Ça enchaîne, il n'y a pas de problème là.
Ah oui, il y a des rebondissements sans arrêt, des nouveaux personnages.
Ah bah dis,
tu crois que si je demandais à Claude Sarraute 1 milliard, elle me les donnerait?
Oh oui.
Génial. Stevie, ça vous plaît cette histoire, non?
Ah mais moi j'aime bien. Non mais quand on touche à ce milieu-là, les Bettencourt, c'est juste la femme la plus riche de France, voire d'Europe. C'est la haute.
C'est la haute quoi?
C'est la haute société. C'est que la moindre attaque, mais tout bouge. Et ça devient très très vite généralement politique.
C'est génial quand même. Ces gens-là.
Non, parce que ces gens-là, ils se connaissent tous. Enfin, quand ils se renvoient tous l'ascenseur.
Ce que je trouve formidable, moi, c'est que ces gens-là qui sont plein de pognon, tellement plein de pognon qu'ils savent pas qui en foutre, ils continuent à tricher et à cacher au fisc et tout. Mais c'est phénoménal. Remarque, c'est peut-être pour ça qu'ils sont riches d'ailleurs.
Hein. Mais oui, bien sûr.
Ah, ouais.
Mais ça se fait à la piscine du Ritz, ça. Si tu vas à la piscine du Ritz, ils sont tous autour comme ça.
Non, mais il y a un secret de. Dans la gestion de fortune, le premier truc, c'est quand on apporte une fortune, si on dit, bon, pour une optimisation fiscale optimale, il faut y avoir un tiers d'avoir non déclaré pour que ça en vaille la peine.
Il faut rappeler que Gaspard a travaillé dans une banque suisse pendant combien de temps?
3 ans.
C'est juste en Suisse aussi.
Non, et du temps du secret bancaire, quand il était pas encore levé.
Mais il existe toujours le secret.
Je crois qu'il vient d'être levé.
Mais pas du tout.
Le secret bancaire, il est comme Titoff, jamais levé. On se retrouve après les titres de 17h.
Qui est sur Europe 1.
On va se gêner.
C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Motreau.
Bonjour
Isabelle. Autour d'Isabelle, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi et Gaspard Proust. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Clémence est à Donlou en Ille-et-Vilaine.
Oui.
C'est, C'est où ça exactement, Don Loup?
C'est à 15 km de Rennes à peu près.
Et vous faites quoi dans la vie, Clémence?
Je suis étudiante en BTS.
Ah, très bien.
Elle a quel âge, Clémence?
J'ai 21 ans bientôt.
Votre voix plaît beaucoup à Fabrice Eboué. Est-ce que Fabrice Eboué vous plaît?
Oui, ça va.
Non, mais si t'avais pas le choix, par exemple.
Votre genre, c'est plutôt. Alors, mais votre genre, c'est plutôt Gaspard Proust, Fabrice Eboué ou Jérémy Michalak?
Et moi, ce qu'on ne pour du pâté.
Un peu, non, oui.
Laisse la rêver un peu.
Des rillettes, en tout cas.
Alors. Non, j'avoue que j'aime bien Gaspard Proust.
Ah, voilà. Quel succès,
ça m'étonne pas.
C'est fou, ça.
Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à Joujou, par exemple?
À part 40 cm.
Déjà, c'est un homme.
Bon, bah, non, allons voir du côté de Johan. Alors, à Sennecey et Dijon. Bonjour, Johan. Voilà.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
C'est dans les Côtes d'Or, Sennecey et Dijon.
C'est ça.
Voilà.
Ça.
Et il fait quoi dans la vie, Johan?
Eh ben, je suis documentaliste dans un collège à Dijon. Mmh.
Très bien.
Un chroniqueur préféré?
J'aime beaucoup l'humour de Gaspard Proust.
Mmh. Ah, voilà.
Pauvre con.
C'est bien, Johan.
Continuez cette émission. Bon, c'est la dernière.
J'aurais pas dû poser la question.
Rien à foutre.
Je suis désolé, dernière. Fabrice.
Non, mais continue,
c'est pas grave.
Fou, c'est comme, mais qu'est-ce que je dirais, moi? Voilà, je suis là, au milieu de vous. Non, et finalement, bon. C'est vous tout le temps qui récoltez les compliments. Moi, je suis. Bon, à part mon salaire.
C'est ce qu'on allait dire.
Johan, Clémence, oui. Vous êtes prêts à gagner un vélo?
Oui.
Un vélo électrique, intelligent, le High Step Tourer 27 vitesses. La solution efficace de votre transport, puisqu'il a dit haute technologie, maniabilité, performance sportive. Bien sûr, si vous le mettez en mode fitness, car il y a plusieurs possibilités avec ce vélo Matra Europe 1. Pour ça, il faut me dire ce que la comédienne Florence Pernel va bientôt jouer à l'écran. Florence Pernel va bientôt jouer à l'écran une personnalité, laquelle?
Qui est dans l'actualité récemment?
Oui, récemment, enfin ces dernières années.
Elle va jouer avec Louis XIV. Louis XVI, Louis
XI. Il faut choisir, là.
Florence Pernel, elle va jouer Louis XI.
Un personnage historique?
Historique, ouais.
Oh, c'est un mot un peu fort, historique.
Vivant?
Pas encore.
Vivant.
Elle va jouer Bernadette Chirac.
Non.
Elle va jouer Ingrid Betancourt.
On n'est pas loin, non?
Non, Madame de Gaulle.
Non.
Madame Destin.
Madame Giscard.
Madame Mitterrand. Destin. Madame Mitterrand.
Qui ça?
Lucie Aubrac?
Isabelle Aubray, non. Non,
Lucie Aubrac.
Non, non, Lucie Aubrac. Une femme de président. De premier ministre.
C'est un
Madame Coty.
Madame Barre. Madame
Barre. François Giroux.
De Viejoncourt.
Non.
Française?
Madame Faure?
Oui.
François Giroux?
Non. On est tout prêts.
Simone Veil?
Non, je peux pas vous répondre oui à une femme de président, mais...
Edith Cresson?
Non.
Une femme de premier ministre.
La maman de Mazarine Pajot?
Non.
Marie-Antoinette? Non.
Presque.
Marie-Antoinette.
Daniel Mitterrand?
Mitterrand, je l'ai dit, Daniel Mitterrand.
Non, c'est pas Daniel
Christine
Mitterrand.
Christine Lagarde?
Non.
Une maîtresse de président?
La fille de Mitterrand?
Non, pas une maîtresse de président non plus.
Une mère humaine de président?
Clémence, Johan, réveillez-vous.
Une belle-sœur de président? Ouais,
ouais. C'est très facile.
Une mère de président?
Non.
Une fille de président?
Non.
Elle a joué une femme quand même?
Oui, une femme.
La femme de Napoléon?
Ouais, c'est vrai que...
Napoléon.
Je crois que Clément, c'est définitivement largué.
C'est vrai que...
Louis XI, Louis XIV, Napoléon.
Donc c'est une femme, en fait, c'est pas une femme de président, c'est une femme premier ministre.
Ça a été une femme de président, mais c'est plus une femme de président.
Ah, Cécilia.
Cécilia!
Mais oui.
C'était trouvable, hein, Clémence et Johan.
Ouais.
C'est Denis Podalydès qui va jouer Nicolas Sarkozy dans un film de Xavier Duringer qui s'appelle La Conquête. Ouais, et le film raconte, sur un scénario de l'historien Patrick Rothman, la montée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Et dans le rôle de Cécilia, on y trouvera Florence Pernel.
Et elle ressemble?
Alors, je sais pas, Florence Pernel, je vois pas qui c'est, en fait, pour tout vous dire.
Bah, moi non plus.
Non, elle ressemble pas du tout, Florence Pernel.
Si, elle ressemble un peu à Cécilia Sarkozy, je trouve.
Ça tombe bien. Bah, le vélo, vous êtes passé devant là.
Voilà.
Clémence.
Bah oui, surtout que je viens de casser ma voiture, alors il m'aurait été utile quoi.
Ah bah oui.
Bah, ouais. Par contre, on vous offre des places pour le spectacle de Stevie à l'entra, le castra dans le placard.
Vous aurez plein de cadeaux, plein de places pour aller au théâtre.
Je veux bien réserver ma place pour le spectacle de Titoff dans quelques années aussi.
Ouais. Le spectacle de Titoff dans quelques années.
Eh ben, on te met 28 places.
Allez, on vous embrasse tous les deux, Clémence, Johan. Désolé encore.
Merci.
13h, 18h30 sur Europe 1. On est du côté du studio Merlin. Nous sommes toujours en compagnie de monsieur Laurent Ruquier, le maître de cérémonie des après-midi avec ses complices. Et on continue à s'amuser dans Va gêner. On continue aussi à se poser des questions sur l'actualité.
Qu'évite-t-on ?
Une valise ?
Oui.
Qui vit-on?
Mais non, oui, pas... vit-on.
Qui vit-on? Comprenez ça, Stevie?
Oui.
Qui vit-on en octobre 1983 sur le plateau de l'émission Gym Tonic aux côtés de Véronique et Davina?
Un homme.
Moi, je sais, mais je.
Ah, bah, vous dites bah, rien, vous.
Un homme politique.
Oui et non.
Femme politique.
Le fut. Qui vient de décéder.
Oui.
Bah oui.
Mais oui. Là, autrement, Alphonse.
Il saurait pas.
Qui vit-on?
Ça, je saurais pas, j'aurais pas su.
Un homme politique qui vient de mourir, je sais pas.
Sur le plateau de l'émission Gym Tonic avec Véronique et Davina.
En je vais dire Raymond Barre,
83, non, tout
il est mort, il y a 3
Raymond
ans,
Barre faire de la Gym Tonic avec Véronique et Davina.
Giscard, mais il est pas mort.
Et c'est marrant parce que justement, il est passé à l'as à cause de la Coupe du Monde, là. On a parlé que de notre défaite et on n'a pas parlé de ce mec-là.
Mais il est très connu?
Très connu.
Ah oui, très. Alors
très,
ça,
très
oui,
connu.
Vraiment, alors.
Mais,
Sarkozy est mort.
Ça faisait longtemps qu'il était plus sur la scène publique.
Ah non, on parlait toujours de lui.
Toujours de lui?
Toujours de lui énormément. Et
trouvait le moyen.
Et en 83, il était sur le plateau de Gym Tonic. On le voit là en short en train de faire de la gym. Avec
il était ministre à cette époque, il faisait quoi?
Je ne sais pas s'il était ministre.
Il a été ministre.
Il a été ministre.
Secrétaire d'État, oui.
Vous avez dit.
On n'a rien dit. On
non,
est
c'est pas évident. C'est pas
je suis
évident.
En train de vous aider là. Vous avez dit.
Vous avez dit.
Sourdé.
Quoi?
Vous avez dit bizarre. Bizarre.
Le général Bijard.
Il fallait chercher du côté du jeu de mots,
ouais,
absolument.
Ouais. Bonne réponse.
Alors tu vois, associer Bijard à Véronique et Davina, c'est fort.
Ça devait être quelque chose. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a quelqu'un qui parle au téléphone.
Oui, c'est Bijard qui nous appelle.
Il y a quelqu'un qui vous parle au téléphone, vous.
Alors, enlève ton casque.
Bah non, mais allô?
Elle entend des voix.
Ça y est. Attends, comment pas pour un taré? Il y a encore des auditeurs qui sont au téléphone.
Mais non, enfin. Non.
Jeanne d'Arc était plus seule, c'est pas ton cas.
Allô?
Tu m'entends, Stevie?
Mais si, je...
Non, mais il y a personne qui parle.
Tu m'entends?
Putain, j'entends des voix, merde.
Et Jeanne d'Arc, la pucelle, t'as Stevie, la salope.
T'entends des fantômes? C'est des fantômes, Stevie.
Mais enfin, non, enfin, voyons, Stevie. Attendez, taisez-vous, on va voir si Stevie entend vraiment des voix.
Allô? Mais non, il y a personne, là. C'est sûr, il y avait quelqu'un, là.
Ah non, nous, on parle pas. Tout.
Non?
Allez-y, Stevie.
Allô? Mais non, mais il y a rien, là.
On essaye.
Ça s'est arrêté. Mais je t'ai dit allô, toi. Il va te répondre.
C'est ta taillée.
C'est Mire et Mirovka.
Mais arrêtez de boire de la bière.
Madame, on ne boit pas de bière.
Non,
on est sportif à Europe 1.
Si sœur de bière, c'est pour Alphonse.
Mais il a même dit. Il a même.
Oh. Ah, merci.
Elle est vraiment phénoménale. Bah voilà, je crois qu'on a tout dit sur Bijard.
Oui, qu'il allait faire de la gym à la télé.
Qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Deux, trois mots?
Oui, bon, oui, on va peut-être en rajouter quelques-uns quand même.
Allez, vite fait. Hein.
Comment vite fait? Avec un mec qui a une vie aussi longue et aussi compliquée, on va faire vite fait peut-être.
Deux, trois mots, pas
les grandes lignes. Les grandes lignes.
Les grandes lignes.
D'abord, Bijard, c'était le centurion joué par Anthony Quinn au cinéma.
Comment ça?
Ben oui, absolument. Il a eu la joie de se voir au Cinoche dans le film qui s'appelait Les Centurions, mis en, je sais plus par quel était le réalisateur, mais adapté du livre de Jean Lartedi. Lui qui cultivait sa légende, il a eu la chance de se voir au cinéma sous les traits d'Anthony Quinn. Et à la limite, moi je trouve que Anthony Quinn, il est pas tout à fait à la hauteur de la gueule qu'avait Bijard.
Il ressemblait à quoi, comme Castaldi, à peu près?
Ah non, c'est... Il était genre plus beau, hein, plus mec. Enfin,
il a pensé au centurion,
moins simple,
Astérix.
Quoi.
Oui, c'est ça. C'est exactement
ça. Il a pensé à Astérix, le film, et il s'est dit voilà. Je sais pas, dès qu'on parle de centurion, je vois Jean-Pierre Castaldi, je sais pas pourquoi.
Ah putain.
Ouais, enfin, c'était un para de légende, hein, qui s'est battu à la fois à la Libération, en Indochine, en Algérie, partout, etc. Bon, ça dit pour définir Bijard, il y a deux façons. Soit la façon, c'est un con glorieux, soit c'est un héros tragique. La première façon, c'était tout à fait dans son style, vient de lui. Tout à fait récemment, il disait, je suis un des derniers cons glorieux, toujours en dosant savamment la provocation, l'ironie et également l'amertume. Parce que c'est vrai que ce type, qui a été à la fois l'acteur et le metteur en scène de sa gloire, à chaque fois qu'il faisait un coup militaire, il convoquait les journalistes, il organisait une prise d'armes ou un défilé, s'il vous plaît. Donc, bien évidemment, bon. Et ce type qui également était un héros au sens qu'on ne voit plus qu'au cinéma, d'ailleurs la preuve, on l'a vu en Anthony Quinn, eh bien, c'est vrai qu'il aurait mérité de meilleurs chefs, il aurait mérité de meilleurs hommes politiques au-dessus de lui, il aurait mérité même carrément, disons, une meilleure époque. Car c'est là, et c'est en cela qu'il est un peu un héros tragique, c'est-à-dire que avoir mis autant de talent, autant de courage pour n'enchaîner que des retraites et des défaites et finir en Algérie pendant la bataille d'Alger par pratiquer la torture, c'est pas juste. Mmh. Voilà. Comme il s'est fait sur le terrain, il a mis 30 ans à devenir général, ce pauvre type, parce qu'il n'a pas fait Saint-Cyr, parce qu'il est sorti du rang et qu'il considérait vraiment les généraux comme des cons et les écoles de guerre comme une connerie également, et il le disait tout haut. Alors bien évidemment, ça enchantait formidablement les journalistes, pas sa hiérarchie mais les journalistes, et il a eu des très grandes plumes qui lui ont tressé des lauriers. C'était Jean Lartégui, c'était Joseph Kessel, s'il vous plaît. Régulièrement, sa hiérarchie le foutait dans des pièges à la con. Et à chaque fois, ils s'en sortaient avec une gloriole invraisemblable. Mmh. À chaque fois, il organisait un défilé à la romaine et il faisait la une des journaux. Bon, et c'est vrai qu'on vous savez, pas n'importe quel petit piège à la con. Mmh. Par exemple, Bienfou, une grosse connerie du général Navarre. Eh bien, il a réussi à s'en sortir très très bien en faisant se battre les gens 2 mois de plus qu'il ne fallait. Il y a eu beaucoup plus de morts qu'on ne pensait également. Et quand il est revenu, figure-toi qu'il a descendu les Champs-Élysées. À la française, on transforme une défaite, une grosse défaite, en gloriole, et voilà.
Est-ce que Domenech pourrait s'en inspirer?
Ah, mais Domenech a pas le style, hein. Ouais, vraiment, je peux te dire, il a vraiment pas le style, hein. Franchement, il aurait dû prendre des leçons, en effet, chez Bijard, il a pas le style. Après, ça a été l'Algérie, malheureusement, là, c'est moins bien. Ça, c'est beaucoup moins bien. Ouais. D'abord, blessé très grave, très grièvement, il est ramené en France, et puis après, il retourne là-bas en 57, malheureux. Il retourne là-bas pour, en effet, la bataille d'Alger, et là, il obéit aux ordres, bêtement, il torture. Enfin, il fait torturer, du moins. Paul Tedjen, qui a été directeur de la police, a même parlé des crevés de Bijard. Et ça, les crevés de Bijard, il n'y avait vraiment pas de quoi se marrer. C'était les suspects algériens, quand on avait fini de leur tirer toutes les informations qu'on voulait leur tirer. On les balançait d'un hélicoptère au large, avec les pieds dans le ciment.
Voilà. C'est horrible, ça.
Oui, c'est une horreur. Bon, ça, en effet, pas très drôle. De Gaulle, quand il arrive en 58, sent que ce type, qui est une véritable légende dans l'armée, il vaut mieux l'écarter parce que il sait qu'il va pas accepter l'Algérie indépendante. Donc, il l'envoie à Dakar avec enfin le grade de général. Et en effet, il ferme sa gueule et il n'est pas entraîné dans la débâcle du putsch. Et on ne reparle de lui qu'en 78, quand en effet Giscard d'Estaing, dont on parlait tout à l'heure, l'appelle au ministère des armées. Puis il entre en politique.
Il connaît quand même plus que Hervé Morin aujourd'hui,
oui,
par exemple.
Lequel Hervé Morin sort du même parti que lui, à l'UDF, oui. Parce qu'il était giscardien.
Enfin, lui, il avait du terrain, quoi.
Et oui, un tout petit peu d'expérience.
Il a fait l'armée, lui, Morin?
Non, il est juste ministre des armées.
Non, mais est-ce qu'il a fait l'armée ou il a quand même pas été réformé d'être ministre de l'armée?
Objecteur de conscience.
Tu sais, au point où on en est aujourd'hui, ça se pourrait.
Ouais, c'est
pourrait
non, mais
Charles Millon n'avait pas fait l'armée, il a été ministre de la Défense.
Mais il jouait très bien au risque.
C'est incroyable, ça.
Alors que Roselyne Bachelot est championne du monde de 100 mètres.
Comme tout le monde le sait.
Écoutez, je dirais une chose, c'est que cette chronique nous a fait un Dien bien fou. Oh.
Et sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner. C'est la dernière de la saison. Profitez bien jusqu'à 18h30 des petites allusions, des petites boutades de Philippe Alfonsi, de Stevie, de Fabrice Eboué, de Jérémy Michelac, d'Isabelle Motreau, de Gaspard Proust et de Laurent Ruquier, bien sûr.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Un triomphe pour Serge Liado. Bonjour, Serge. Bonjour. Après ce soir, vous êtes en vacances, Serge.
Exact.
C'est votre dernier bêtisier aujourd'hui. Voilà. Bourre de gaffe, lapsus, erreur de syntaxe. Que de la politique?
Oui, c'est exclusivement politique. C'est tout pratiquement inédit, en tout cas dans le bêtisier. Il y a 2-3 phrases qu'on connaît, mais ça n'a jamais été dans le bêtisier. Donc voilà, je vous envoie la primeur.
Vous avez bu là,
ben oui, c'est l'heure.
Vous êtes dans le même état que Monique Pantel, ce qui m'inquiète.
Ça me vend le pastis ici, vous savez.
Allez, c'est parti.
Monsieur Arthur Comte ressemble étrangement au portrait robot, tracé par Monsieur Pompidou.
Si l'on veut battre la gauche, il n'y a qu'avec la gauche, pardon. Si on veut battre la gauche, on peut toujours le faire en votant à droite. Mais si on veut battre la gauche, avec la droite.
Monsieur Juquin 2, Monsieur Laguillet 2,1.
On a travaillé avec les directeurs régionaux de Pôle emploi pour assouplir les procédures qui étaient trop lourdes. Et on a une mission qui a été confiée à Karl Marx, qui va être confiée à Jean-Marie Marx.
Il faut aussi prendre un certain nombre de précautions pour que lorsqu'un ministre comparaisse en justice...
Mais votre crainte, c'est de vous dire si le CRS, si le CDS, ça, nous les appellerons seulement en cas de nécessité absolue.
Il est question d'essayer d'aider la population civile au mieux, c'est-à-dire avec ce bourreau, ouvrir un bureau.
Nous présentons au Parlement actuellement un projet de loi visant à modifier, réformer la profession des sadiques de faillite.
Oh, le lapsus.
En politique, avec une faute pareille, je loupe le bac. Hein.
Monsieur Monk, bon marché, une première.
Ça va marcher, pas beau, pas beau.
L'ignoble attentat de la rue Copernic.
Cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents.
Monsieur le Président, je voudrais vous dire toute mon estime. Parce qu'il a tant souffert le Liban qu'il a besoin de la force et du talent de tous ses enfants, quelle que soit leur confection.
Regardez l'Europe, la taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe.
Quelles qu'avaient pu être avant la guerre leurs opinions, ils se battirent tous pour la même idée de la liberté.
Pour les cantonales, nous n'allons pas renverser la majorité du Conseil général, mais nous allons l'ébranler.
Si vous aviez été un des membres des Rolling Stones, vous auriez été qui ? Plutôt Ringo Starr.
C'est ça qu'on fait ensuite les petites phrases du bêtisier.
Bravo Serge, bravo. Joli travail. Bonnes vacances Serge.
À vous aussi.
On se retrouve à la rentrée. Hein. Bon, je sais que Fabrice Eboué fait circuler une pétition, mais mais on vous retrouve. À la... un mot gentil pour Serge Liado, Fabrice, pour terminer.
Oui, bonnes vacances, mon Serge.
Baigne-toi bien près du bord, hein, Fabrice.
On vous embrasse, Serge. Et merci pour cette belle saison. Bien. Magali et Abigail habitent Béziers. On est impatients de savoir si elles vont obtenir leur bac littéraire. Pour quelle raison ?
Il doit y avoir la plus jeune candidate au bac parmi les deux ?
Non.
La plus vieille de France ?
Non plus.
La plus moche ?
Non.
C'est leur famille qui est un peu étrange, enfin, ou qui provoque...
Ah oui, je sais. Oui.
Allez-y.
Elles sont siamoises et on se demande si elles vont copier l'une sur l'autre.
C'est vrai que c'est pratique. C'est...
Est-ce qu'elles ont un handicap ?
Non.
Elles se connaissent ?
Oui, Magali et Abigail se connaissent. Elles c'est une bonne question.
Elles sont dans la même classe ?
Non.
Bah, on parle de leur grand-père, je sais pas, ou de leur famille, enfin comment quelqu'un de la famille, je sais pas, dans l'épreuve.
Pouvez-vous préciser votre question ?
Bah, je sais pas, imagine.
Il y a Magali Bonaparte et Abigail.
Voilà.
Par exemple.
Elles habitent Béziers, Magali et Abigail, et on est impatients de savoir si elles vont obtenir toutes les deux leur bac littéraire.
C'est les seules de Béziers littéraire. À passer le bac ?
Oui, c'est les seules de Béziers, elles sont deux. Ouais. C'est une petite
classe. Elles sont
que deux à passer le bac à Béziers. C'est gentil pour tous les Biterrois et toutes les Biterroises qui nous écoutent.
Ah, Biterrois, ça se dit.
Oui, c'est comme ça.
Alors, ce qui est étrange, c'est l'endroit où elles passent le bac, par exemple.
Non.
C'est un tout petit village.
Non. Vous n'étiez pas loin à un moment donné. Vous étiez.
Ouais. Elles se connaissent.
Vous brûliez, comme je dis. Mais...
C'est la mère et la fille ?
La mère et la fille, bonne réponse de Jérémy Michalak. Il est malin ce joujou.
Ouais.
Il nous déçoit jamais.
Non, jamais.
Abigail a 17 ans, sa maman a 48 ans et sa maman a déjà le bac, mais pas le bac littéraire. Elle a eu un bac gestion secrétariat. Elle s'est dit, tiens, ça m'amuserait de m'inscrire cette année pour voir si je pourrais avoir le bac en même temps que ma fille dans la section...
Pour narguer sa fille rate, quoi.
Ah ouais, ça serait terrible.
Je l'ai eu et pas toi, quoi.
Ça m'est arrivé, moi, ça, avec le permis de conduire.
Ah ouais, c'est-à-dire ?
Mais j'ai passé le permis en même temps que mon papa.
Et lui aussi, il avait du sel dans ses chaussures ?
Ah bah oui, forcément, on en mettait dans toute la famille.
Du sel ?
Vous avez retenu ça, vous ?
Ah oui, ça m'a marqué.
Pour conjurer le mauvais sort.
J'ai eu des tas de témoignages d'auditeurs qui font la même chose.
Hein, ah mais devant ta porte, pas dans tes chaussures.
Non, il mettait dans ses godasses.
Ah, et ça vous arrive
ah
bah, ça ?
Ah bah c'est radical au moins.
Comme c'est radical.
Ça tue partout.
Moi, ça m'est arrivé avec le test du sida. Mon père l'a eu et pas moi.
Quelle horreur !
C'est horrible.
C'est une
Non, mais moi, le permis de conduire, c'est vrai que mon papa a passé le permis de conduire en même temps que moi, parce que moi, je l'ai passé quand j'avais 18 ans et lui, il l'a passé très tardivement. Et moi, je l'ai eu au bout de 3 fois et lui, il l'a eu du premier coup. J'avais la honte, quoi.
Ah, bah oui. Ah,
on a la honte dans ces cas-là. Donc, j'imagine la petite Abigail, là, qui a 17 ans, si sa maman de 48 ans a le bac et puis qu'elle, elle l'obtient pas, ça, c'est vraiment, c'est terrible, quoi. Vous voulez une autre question?
Ah oui, oh oui.
Oui. Une bien dure. Oh.
Pas la question. Hein.
J'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on va bientôt pouvoir trouver d'assez étonnant au Danemark? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de bien étonnant au Danemark?
Du soleil?
Non.
Ce rapport avec
ouverture, Karine, je peux vous le dire, hein, en septembre, au printemps 2011.
Pas un magasin alors?
À Randers, exactement, dans l'ouest du Danemark.
Un magasin?
Non. On pourra y acheter des choses.
Un parc d'attractions?
Pas un parc d'attractions.
Une boîte de nuit?
Non.
Mais un truc de loisirs?
Oui, un truc en tout cas qui se visite.
Ah, un musée?
Ah, qui se visite.
Pas un musée.
Une exposition?
Mais quelque chose qui ressemble à un musée.
Un zoo?
Pas un zoo, il y en a des zoos.
C'est quelque chose qui...
Une expo? Un aquarium?
Non.
Un truc artistique éphémère?
Non.
Est-ce que c'est quelque chose justement qui existait avant mais qu'on ne pouvait pas visiter?
C'est quelque chose qui existe déjà
à Paris,
qui n'existait pas au Danemark.
Ça existe en France?
Non.
En Amérique?
Oui.
Dans l'Utah?
Pardon, mais quand tu dis...
Dans quoi?
L'Utah?
Non.
Tu sais les têtes gravées dans les montagnes là.
Ah, ah le Mont-Rochemort, oui, bien sûr, ils vont le faire au Danemark.
Disneyland quelconque, non?
Oh, bah, c'est pas si loin. Hein.
Ils vont faire le Grand Canyon.
C'est quelque
aussi.
Chose qui va être un palais de glace? Qui va être
non.
Ils vont faire une statue de Michael Jackson?
Mais on se rapproche.
C'est une statue?
Non.
Un World Trade Center pour attirer Ben Laden?
Non.
Une statue de la liberté?
Non plus.
La plus grande
un musée Michael Jackson?
Non, mais on
a... Un parc d'attractions Michael Jackson?
Non.
Des studios Universal comme Los Angeles?
Non, ça n'est pas lié à Michael Jackson, mais on se rapproche quand même.
Ah, un land, quelque chose, c'est... genre Elvis Presley?
Bonne réponse d'Isabelle Motro.
Mais pourquoi là-bas?
Graceland, le célèbre manoir d'Elvis Presley, va être construit, le chantier vient de commencer, va être construit au Danemark. La copie conforme du manoir qu'on peut trouver à Memphis dans le Tennessee, là-bas au Danemark. Pourquoi au Danemark? Ne me demandez pas. Mais on estime qu'il y a aux Danois des fans d'Elvis Presley qui seront heureux d'avoir leur Graceland sans avoir à traverser l'Atlantique et à aller jusque dans le... Comment ça c'est con?
Bah c'est con, enfin je sais pas, je trouve ça con. Parce qu'il faut aller sur place, à Memphis, c'est là-bas qu'il a vécu, c'est là-bas qu'il était, il avait ses repères, ses habitudes. Non, mais c'est con d'en refaire un. C'est comme les Chinois qui refont Versailles je sais pas où. C'est con, autant qu'il n'y aura pas refaire Versailles.
Alors moi, je suis d'accord avec Stevie.
Ah oui?
Bah oui, écoute,
il en faut.
Il y a quelque chose d'émouvant dans il faut que ce soit émouvant, je ne peux pas être ému dans un truc qui est complètement artificiel.
Mais d'abord, qu'est-ce que vous connaissez d'Elvis Presley, vous, Stevie?
Oh, bah pas grand-chose.
Ah, oui,
à part qu'il était un peu facho, peut-être.
Un peu facho, Elvis Presley? Non.
Tu confonds avec Bijard.
Il n'était pas un peu facho, Presley?
Non.
Je sais pas, je crois qu'il votait dans des parties des extrêmes.
Il votait Le Pen, ouais, je crois, à l'époque.
Non, mais c'est pas.
Au deuxième tour,
qu'est-ce que vous connaissez comme chanson d'Elvis Presley, Stevie?
Love me.
Ah oui, quand même.
C'est Love me.
C'est intéressant.
Ah oui. C'est pas mal.
C'est l'anti-castra.
Ouais,
c'est la version sweet de sucré d'Elvis.
Non, j'aimais bien ses costumes et tout. Il était plutôt beau gosse. Je connais sa fille, Marie, qui était mariée à Michael Jackson, d'ailleurs. Et d'où le rapport, presque. Je savais que sa femme jouait dans Dallas.
Ah bon?
Bah oui, la femme.
Femme d'Elvis?
Bah oui, elle jouait dans Dallas.
C'était
elle jouait...
laquelle?
Comment elle s'appelait?
Il connaît pas d'Elvis, mais il sait tout, absolument tout.
Non, Sue Ellen, c'était pas ça.
Pamela?
Non, pas Victoria, l'autre, merde.
J.R.?
Non.
Patrick Duffy?
Mais... Elle jouait... Mais si, enfin, vous savez pas ça, vous.
Non.
La mère?
Mais si, sa femme, elle jouait dans Dallas, elle jouait la femme de Bobby à une époque.
Pamela.
Non, pas Pamela.
Bah, c'est Pamela, l'autre. La femme de Bobby.
Oui, il y avait Pamela, mais il y en avait une autre aussi.
Une maîtresse.
L'aimait.
C'est un bel hommage à Elvis Presley. Oui. Et justement, je vous propose de l'écouter sur Europe 1.
Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't
hommage au King Elvis Europe, hein, 17h37. J'espère que ça vous a permis de danser un petit peu. Nous, on va continuer à le faire pendant la publicité et on retrouve Laurent Ruquier juste après.
On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier
jusqu'à 18h30.
Europe 1, on va se gêner.
Le livre de la semaine.
L'entreprise des Indes d'Eric Orsena, publié chez Stock Fayard. C'est le livre que je vous ai demandé de lire pour nous cette semaine. Eric Orsena de l'Académie française, comme on doit dire, signe ce roman. Et c'est peut-être Stevie qui va commencer pour nous faire le pitch, Stevie.
Moi je n'ai pas eu de livre.
Comment ça, Stevie, vous n'avez pas eu de livre?
Bah, on m'a appelé 2 heures avant l'émission. Je vais bien lire un livre en 2 heures.
Enfin, vous lisez vite.
Ah non, mais tu sais quoi? C'est ça qui m'angoisse. Quand j'ai un bouquin, je vois les gens, ils vont vachement vite, mais moi je suis obligé de dire phrase par phrase, parce que je visualise. Tu sais, quand je suis obligé de visualiser, c'est terrible. Mais je te jure, lire une centaine de pages, ça me, je mets 2 heures, quoi, tu vois.
Est-ce que tu lis le numéro de page, peut-être? C'est plus long.
Mais non, mais je lis extrêmement lentement. J'aime bien prendre mon temps, visualiser. J'aime pas lire un livre vite, sinon j'oublie tout.
Bon, bah alors tant pis, je me dirige vers Isabelle Motreau, L'entreprise des Indes, signée Orsena. Ça vous a passionné?
Oui, alors ça s'appelle L'entreprise des Indes parce qu'en fait, Orsena raconte non pas la découverte de Christophe Colomb, mais la préparation du voyage. Et donc, c'est raconté par le jeune frère, Bartholomée, de Christophe Colomb. Et donc, voilà, qui va nous raconter par, je sais pas, il y a 800 pages, 500 pages, c'est un assez gros bouquin et très dense.
Oh, pas tant que ça, ça vous a paru long,
toutes
alors
les... Oui, c'est quand même un peu long. Hein.
Oui, mais il y a que 385
toutes
pages.
Oui, enfin, il raconte toutes les tous les préparatifs de ce voyage. Et ensuite...
J'échappais au pire.
Et ensuite... non, parce qu'en fait...
Avant les vacances, j'aurais pas eu le moral. Hein.
Alors, en fait, on n'a pas vraiment le moral quand on termine, parce que en effet, enfin moi, ce qui m'a choqué au bout d'un moment, quand on arrive au massacre... Qu'on nous raconte au début, d'ailleurs, le livre s'ouvre par un sermon d'un moine franciscain, je ne sais plus s'il est franciscain ou pas, peu importe,
dominicain,
qui justement demande à ses ouailles pourquoi il domine à ce point les Indiens et pourquoi il les laisse mourir et pourquoi ils ont fait ce massacre, etc. Et puis on repart dans les préparatifs du voyage et ensuite on va se retrouver au cœur du massacre pendant que en Europe se déroule un même massacre aussi, mais là cette fois-ci à cause des guerres de religion. Et donc Orsena nous raconte tout ça, cette espèce à la fois de rêve, de d'envie qu'avaient ces hommes de découvrir le monde, de découvrir d'autres contrées, de découvrir d'autres hommes différents d'eux, et comment à partir du moment où ils arrivent, en fait leur but c'est finalement de récolter le plus d'or possible, et finalement toute cette curiosité et ce rêve va se transformer en cruauté, en cynisme total. C'est un livre, moi j'ai trouvé assez remuant, quoi. Assez
ça vous a plu alors quand même?
Oui, ça m'a plu, mais c'est assez dur quand même.
Oui, c'est pas pour la plage cet été.
Non.
Voilà. Philippe Alfonsi.
Ah, moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin, d'abord parce que la plume d'Orsena est de mieux en mieux, je trouve. Franchement, alors il décrit, il explique comment on respire. Magnifique. C'est vrai.
Non, mais
c'est vrai. Et c'est formidable parce que ce bouquin répond, tout commence par la question pourquoi. Ouais. Pourquoi vous avez massacré ces Indiens? Pourquoi vous avez découvert l'Amérique? Pourquoi vous avez fait ça? Et c'est formidable parce que les deux grandes parties du bouquin, c'est un, la curiosité, ce que vient d'expliquer en partie Isabelle, la curiosité dont il rappelle en passant, vous savez, c'est à son amour de la grammaire, notre ami Orsena, que curiosité revient du latin cura, qui veut dire guérir. Et c'est une espèce de curiosité thérapeutique, comme ça, où on a absolument besoin, et qui s'oppose à un truc alors que j'ai trouvé formidable, et j'ai appris dans les remerciements qu'il devait ça à Luc Ferry, qui lui avait donné toutes les indications là-dessus, sur la sainte ignorance. Comment, à cette époque-là, l'Église entretenait les gens dans la sainte ignorance. Il fallait qu'on soit ignorant de tout pour pouvoir croire en Dieu et baigner dans la plénitude de Dieu. Donc on en faisait des crétins absolus, et tout d'un coup, un certain nombre de gens, dont Colomb et son frère et les autres, poussés par la curiosité, ont traversé les océans et en effet racontent cette espèce de préparation formidable. Et avec cette deuxième partie qu'il appelle la fièvre, et là c'est en effet cette espèce de cataclysme que va être la rencontre de notre civilisation et de la civilisation indienne avec ce génocide invraisemblable qui a eu lieu. Et là je trouve que ce bouquin, la porte cette histoire en, avec une certaine. Moi, je sais pas, tu l'as trouvé lourd, moi j'ai trouvé léger au contraire.
Non, mais lourd.
Il a une espèce
dire,
de style léger, cruel, justement. Quoi, il raconte comme on raconte le soir à la veillée. C'est très simple, à la fois magnifiquement écrit. Et enfin, c'est du Orseda, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un type qui est décidément.
Et la préparation, ça s'est passé comment alors
Non, bah, c'est, la préparation, c'est
il
d'abord
peut,
que
années,
Bartholomé, hein. Si tu veux, le jeune frère. Il passe toute sa jeunesse à Lisbonne chez un cartographe. Et qui, à l'époque, qui possède la carte des cartes est le maître du monde, parce qu'il va pouvoir aller justement découvrir, aller plus loin, etc. Et lui, il vient carrément enlever son frère au cartographe pour précisément se servir de sa science et de ce qu'il sait pour pouvoir. Préparer. Et alors, c'est génial parce qu'au début, il lui fait compter les jours dans le livre de Marco Polo qui raconte, il lui fait compter les jours. Et il y a un type qui lui dit, mais attendez, vous savez que c'est très très compliqué d'arriver à traverser la mer en comptant les jours, ça n'a strictement rien à voir. Et en effet, on verra après dans la traversée que c'est l'évaluation. Il pensait qu'on pouvait traverser l'océan Atlantique pour rejoindre les Indes, parce que c'est ça l'idée, ouais. Pour rejoindre les Indes, en allant beaucoup plus vite que Marco Polo l'avait fait par la Terre.
Il n'avait pas acheté un guide du retard ou un truc.
Il n'avait pas acheté un guide du retard, mais quelque chose si, d'une certaine
c'est
façon.
C'est ça qui faisait un peu. Hein.
Ça vous a, en ça tout cas, paru très réussi.
Ah oui, moi j'ai trouvé ce livre formidable.
Gaspard Proust.
Moi je suis un peu comme Stevie, c'est-à-dire que.
Ah bon ?
C'est vrai.
Qu'est-ce
hein
que ça veut dire ? Non, pas du tout. Non, je suis encore en train de le lire parce que j'aime bien lire un livre lentement pour m'imprégner de l'histoire et de tout ce qui se raconte. Il y a des anecdotes. C'est très didactique et agréable à lire. Je trouve que quand tu dis que c'est pas un livre de plage, je trouve qu'au contraire c'est plutôt agréable.
En même temps, ça se lit très facilement.
Voilà, ça se lit plutôt facilement. Après, bon, il y a quelques défauts. Hein. C'est comme tous les livres historiques. Le problème, c'est qu'ils sont un peu coupés de l'actualité. Donc, on ne parle pas de Domenech, il ne parle pas de la France. Il y a tout ça, il fait l'impasse. On ne peut pas lui en vouloir. Quoi. C'est un peu en même temps. Il parle du Portugal qui, à l'époque, rayonnait beaucoup, ce qui m'a beaucoup fait rire. Et voilà. Donc, après, il y a juste une petite chose un peu pédante comme ça. Parfois, ça me rappelait Marguerite Yourcenar dans les mémoires d'Adrien. Vraiment léger, comme ça, dans sa façon de décrire les choses avec une espèce de recul et tout, mais sans vraiment y arriver. C'est la seule petite.
Fais une autre gueule là.
Mais pas du tout. Pas du tout. C'est comme dans les mémoires de rien. C'est vraiment cette espèce de recul. Tout ça. Ah voilà. L'intellectuel en face.
Très
beau
livre. Très beau livre, les mémoires de. Absolument.
Mais oui, voilà.
Alors vraiment, il ne me serait pas venu à l'idée de comparer Orseda à Marguerite Yourcenar.
Ah non, mais je ne les compare pas. Je dis juste, voilà le chemin qui reste.
Oui, c'est ça.
Marguerite Yourcenar.
Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui viens de.
Marguerite Yourcenar.
Moi, j'ai cité. Ça, c'est vraiment indigne ce que tu as fait. Casser un livre comme ça sur la radio, moi, je ne me permettrais pas.
Donc vous avez aimé Gaspard.
J'ai adoré. Il faut le voir au cinéma, ça joue jusqu'au. Non, mais je suis en train de le lire, mais vraiment, c'est. Non, je trouve que c'est
agréable. En train de lire, ça vous
et je vais aller jusqu'au. Je vais aller jusqu'au bout. Mais comme je dis, je lis lentement.
Vous êtes à quelle page ? Vous foutez de ma gueule.
Jamais.
En tout cas, Isabelle Motreau et Philippe Alfonsi, eux, vraiment vous conseillent ce livre. On peut le dire.
Ah oui, moi, quand j'ai dit que c'était pas un livre de plage, ce que je voulais dire, c'est que c'est dur, ça raconte des choses cruelles,
pas,
ouais. Mais ça se lit très bien.
C'est pas ça qui vous fera de l'ombre.
Moi, je vais à la montagne, c'est bon.
Ouais, tu peux. Pour la montagne, c'est bien.
L'entreprise des Indes, un roman signé Eric Orsena, c'est chez Stock Fayard. À tout de suite avec Monique Pantel.
Ah oui.
Europe 1, on va se gêner.
Ciné.
Motro.
Pampan.
Bonjour Monique.
Bonjour, vive la France. Si elle n'est pas bonne au foot, elle est formidable au cinéma.
Ah ben voilà, ça fait plaisir à entendre. C'est déjà ça. Les Petits Ruisseaux par exemple, vous ont plu Monique?
Oui, beaucoup.
Avec Daniel Prévost.
C'est un très joli film. Pas du tout gnangnan comme la semaine dernière, le film de Jacques Tapie. C'est rafraîchissant. Et c'est l'amour après 60 ans. On pourrait avoir peur, se dire mais non, c'est la tendresse, le rire, la danse et la sexualité. Quand le grand copain de Prévost, un copain de pêche, ils vont à la pêche, meurt, Prévost s'affole, qu'est-ce qu'il va s'emmerder tout seul, mais pas du tout, parce qu'il reprend une ancienne maîtresse du mort, et voilà, il s'amuse, et puis il en rencontre une autre, une faux-folle, et c'est vraiment marrant. C'est un film lumineux qui donne de l'espoir, on peut s'aimer à tout âge. Ah. C'est très drôle et très tendre.
Vous, ça vous a donné de l'espoir, évidemment, vous étiez particulièrement concernée, Monique.
Plus maintenant, j'ai écrit un livre, vous savez bien, sur l'amour après 60 ans.
Mais justement, c'est pour ça, je me dis...
Mais maintenant, j'ai passé l'âge depuis longtemps.
Ah, bah, alors, faudrait
je
savoir.
Rêve maintenant, il me reste le rêve.
Ah bon, vous, Isabelle Motreau?
Bah, moi, je n'ai pas encore 60 ans, tout à fait.
Bientôt.
Dans quelques mois,
Ça va venir.
Ça va venir très vite, hein, ma chérie.
Oui, je sais, Monique.
Qu'est-ce qu'on va se marrer à ce moment.
Et les petits ruisseaux, alors.
Donc, oui, c'est moi, j'aime bien ces films-là qui sont absolument hors des sentiers battus. Ces petits ruisseaux, c'est des sentiers, hors des sentiers battus aussi. Et il y a une espèce de, ce que Monique disait, une tendresse et un humour qui est complètement inattendu, quoi.
C'est un film
et puis
de...
Prévost, il est vraiment très,
il est
très bien.
Sensationnel, Prévost.
Très, très bien, ouais. Vraiment.
C'est un film de Pascal Rabaté
qui est un dessinateur de BD au départ et qui c'est son premier film et ma foi il faut qu'il continue.
Il a d'ailleurs, je crois, d'abord raconté cette histoire en BD d'ailleurs. Hein,
oui, c'est possible.
C'est une bande dessinée au départ.
Mais les vieux, on les voit baiser ou pas?
Oh non.
T'as qu'à aller le voir.
On les imagine, on les devine.
Oh, ça m'intéresse
mieux.
Pas alors.
Un film de Kim Chapiron, Dog Pound. Hein. On en parle beaucoup de ce film. Et Kim Chapiron est un jeune, un Français d'abord, mais jeune réalisateur très brillant.
Très brillant. Quand j'ai vu Dog Pound il y a 4 jours, quoi, j'ai failli partir.
Ah oui.
Ah, je pouvais pas supporter. C'est un film choc et le mot est faible. Hein. C'est tellement dur que j'ai failli partir. Puis je me suis dit, je peux pas faire ça au cinéma. Et ni à Laurent.
Ah non.
Et donc je suis restée. Mais c'est magnifique. Il faut l'avoir vu parce qu'il faut voir qu'il se passe des choses atroces dans les prisons. C'est une prison américaine où 3 petits délinquants de 15, 16 et 17 ans entrent ensemble. On les fouille, on les regarde de partout, dans tous les trous, partout. Et puis bon, c'est une prison. C'est pas les gardiens qui sont méchants. Ce sont les autres détenus. Dont
les
un
détenus qui, entre eux, quoi.
Surtout un qui fait la loi. La loi du pervers, la loi du méchant. C'est horrible ce qu'ils font subir à ces petits. C'est horrible. On a peur du début à la fin. Il faut le voir quand même, parce qu'il faut voir l'horreur. Il faut savoir ce qui se passe.
Isabelle, Motro, Dog Pound.
Oui, alors là, j'avoue que je suis complètement d'accord avec Monique du début à la fin, décidément. C'est vraiment un film assez dur à supporter. Hein, ça. Alors là, il faut prévenir les gens, en effet, les qui n'ont pas les nerfs bien accrochés.
C'est pas un truc à aller voir en famille avec
non,
les enfants.
Surtout non, pas surtout avec des pas, enfants. Non, et non. Pourtant, ce sont vraiment des enfants, enfin... C'est l'impression qu'on a au début. Ça fait partie quand même dans les films de prison. C'est un genre hein, au cinéma. Et là, c'est particulièrement violent parce qu'en effet, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, là, l'ennemi est de l'intérieur.
C'est mieux
quoi.
Que Le Prophète, le film de Jacques Audiard.
Oh non, ça, moi, je trouve que non. Mais c'est un avis personnel. Aussi. Mais non, Le Prophète, c'est vraiment un film génial.
Ah oui.
Là, c'est un très bon film, mais c'est pas le même genre en plus.
Mais par rapport à
raconte
Prison
pas
Break.
L'histoire
par
de.
Rapport à Prison Break.
Alors, ça, on l'a comparé beaucoup à Prison Break, justement. Il y a beaucoup de critiques qui en parlent, qui trouvent que ça se compare.
Par rapport à La Vache et le Prisonnier, Monique.
Alors, par rapport à La Vache et le Prisonnier.
Est-ce que ça marche, Isabelle?
Ça marche très, très bien, ce qui ne m'étonne pas beaucoup, vu que les ados vont s'y précipiter, les grands ados.
Un film américain, maintenant, avec Ashton Kutcher et Catherine Heigl, Kiss and Kill.
Alors, écoutez, ce film est nul. Mais Ashton Kutcher est si beau qu'on a envie de le manger.
Ah oui, ah oui.
Dans ce film léger comme une bulle de savon, il est un agent secret qui dit pas qu'il est agent. Et puis tout d'un coup, 30 ans plus tard, les balles se mettent à pleuvoir, il faut pas continuer à en parler, ça vaut pas la peine. Ouais. Mais lui, il est beau.
Bon, pour ceux qui aiment Ashton Kutcher, quoi.
Mais oui, évidemment.
Isabelle,
c'est un film pour Sharon Stone.
C'est votre cas,
à mon avis.
Non, Demi Moore, vous voulez dire.
Demi Moore, oui, pardon.
Et vous, alors?
Oui, non, alors là, même lui, je trouve qu'il sauve pas le film. Hein. C'est même pas que. C'est tellement léger
tellement
que c'est lourd.
Moi, je suis sensible à la beauté des gens.
Oui, mais enfin, tu vas pas t'as qu'à prendre une photo, Monique.
Oui.
Et Bruce Willis, alors, dans Top Cops.
Oh là 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 là.
C'est de pire en pire.
Vous l'attendiez.
Ah?
C'est le nanar de l'été.
Ah,
ben.
Ah oui?
Les deux cops du film sont si cons qu'ils ne peuvent intéresser quiconque.
Oh, bah.
Quiconque, pardon. Comme le titre ne l'indique pas, ils sont deux copains.
Ouais.
Très cons. Et dès qu'ils font une enquête, ils la ratent, et voilà. Mais je vais pas continuer à en parler, sinon je tombe dans la déprime.
Ah oui, ça vous a vraiment pas plu, alors.
Oh, c'est idiot.
Isabelle, ça marche,
oui,
ça marche, ça?
Ça va marcher, je pense.
Oh, j'espère que non.
Non, je suis pas sûre que ça marche, parce que c'est vraiment, vraiment raté,
c'est
vraiment nul. Il n'y a pas d'histoire, et puis alors Bruce Willis, il est vraiment en dessous, là. Hein, c'est
et
pour payer ses impôts.
Hein.
Et vous n'avez pas vu, Monique, le caméléon avec Marc-André
et non,
Grondin?
J'ai oublié d'y aller. Alors le plus beau, c'est que j'avais marqué la projection, j'ai complètement oublié.
Ah, c'est dommage, parce qu'on adore ce comédien, Marc-André Grondin. Il paraît que c'est pas mal réussi, le caméléon. C'est sur, vous savez, ce type qui s'appelait Bourdin, je crois, hein,
qui
Jean-Jacques Bourdin.
Qui se fait passer pour des.
Mais qui se faisait passer
des enfants perdus.
Qu'est-ce qu'il y a, Monique?
tousse.
Oh, merde, on la perd.
Pourquoi vous toussez, Monique?
C'est parce qu'il faut que je parte vite pour voir un autre film.
Ah bon? Bah écoutez, ça tombe bien, parce que ça, on a fini. Ouais. Et enfin, on a fini, on est là jusqu'à 18h30, nous. Mais vous, vous avez fini. On va vous souhaiter de bonnes vacances.
Eh ben,
Monique.
Aussi, mes chéris.
Et retenir surtout que pour les films sortis mercredi, ben, il faut aller voir Dog Pound, voilà, si on a envie de voir un film un peu, on va dire, un peu fort sur l'univers carcéral. Ou alors Les Petits Ruisseaux pour un truc un peu plus tendre avec Daniel Prévost.
Ça, et en plus, ce qu'il faut dire sur Dog Pound, c'est que c'est un très bon film. Mmh.
Ouais. Très bien réalisé.
Allez, peut-être à la rentrée, Monique. Hein.
Peut-être.
Inch'Allah, comme on dit chez nous.
On vous embrasse, Monique.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Bonjour, invité d'honneur.
Bonjour.
Oh là, voilà, vous êtes extraordinaire, je dois dire. Je suis ravi de vous recevoir et j'espère que mes camarades le seront aussi. Ils sont prêts à vous poser des tas de questions, questions auxquelles vous répondrez. J'espère que vous avez déjà entendu notre émission par oui ou par non.
Oui.
Oui. Parfait.
Vous êtes une femme?
On s'en doutait.
Si vous étiez un animal.
Répondez par oui ou par non. Hein.
Mais oui, elle est courte votre question, Fabrice Eboué.
Ouais, effectivement, je vais la reformuler. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'artistique?
Oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire.
Est-ce que vous pouvez enlever le micro de votre bouche? Est-ce que vous parlez lentement ou est-ce que c'est la voix qui est déformée comme ça? Vous parlez très lentement dans la vie?
Oui, relativement.
Vous avez eu...
Pose-toi aussi, je
toujours avec une patate dans la bouche.
Vous avez eu des problèmes de toxicomanie avec des potes,
Non.
Ah. Un lien avec la prostitution,
peut-être. Oh non.
Non.
Bon, est-ce que vous êtes connu pour votre humour, invité mystère?
Pas particulièrement.
Pas particulièrement.
Vous êtes
pas
une femme un peu quand même.
Vous êtes sévère alors?
Lucide, il y a des gens plus drôles que moi.
Non, quand il dit sévère, dirait... si je sors, est-ce que vous donneriez des fessées, des choses comme ça?
Vous pouvez poser des questions, Philippe Alfonsi, hein, si on vous dérange pas. Hein.
Non, non. Laurent vous accueille en disant « Je suis très heureux de vous accueillir. Est-ce que vous pensez que Laurent Ruquier vous admire ?»
Il faudrait lui poser la question.
Mais bien sûr.
Je pense que de temps en temps, oui.
J'admire tous les invités que je reçois.
Est-ce que vous êtes
c'est un principe.
Vous êtes une femme de scène.
Non.
Est-ce que vous avez reconnu le premier indice?
Il n'y en a pas eu encore. Justement, le voici, le premier indice.
Je sais.
Maintenant, vous pouvez reposer votre question, Gaspard.
Non, parce que je sais déjà qui c'est.
Allez-y, alors.
Vous avez joué dans un film avec Michel Audiard.
Alors, est-ce que vous avez compris l'indice?
Oui.
Oui.
Vous êtes une couche-tard. Une couche-tard.
Ah, à cause de la permission de minuit,
bien
évidemment.
Bien sûr.
Eh oui. Est-ce que vous êtes couche-tard?
Est-ce que c'est vraiment permission de minuit qui vous parle en tant qu'indice?
Oui, quand même.
Oui.
C'est ça.
Ah.
D'accord.
Bah, qui devait rentrer avant minuit? C'était Cendrillon. Vous êtes princesse?
Cendrillon. Ah, êtes-vous princesse? Bonne question, Dusty.
Non.
Est-ce que vous écrivez?
Oui.
Ah, dans la presse?
Oui.
Oui, vous écrivez dans la presse.
Aussi, on peut dire aussi.
Aussi, oui. Mais sinon, vous écrivez plutôt de la fiction, des histoires?
Oui.
Est-ce que vous avez écrit Oui, oui et la voiture jaune?
Non, non.
Ah, merde.
Voici un deuxième indice.
C'est une fille.
C'est Club de Ruth, ça?
Non.
Est-ce que vous avez reconnu ce générique, Stevie?
Ça me parle.
Ah, ça vous parle.
Est-ce que c'est Ciel Montmardi?
Non, 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 c'est pas Ciel Montmardi.
C'était Pas de pitié pour les croissants.
Pas de pitié pour les croissants, exact, bravo, Stevie.
Ah, c'est vrai, c'est ça?
Une encyclopédie, Stevie.
Alors, est-ce que vous avez travaillé avec Dorothée?
Mais vous comprenez cet indice.
Vous avez travaillé dans une émission matinale, le matin.
Ça, c'est une bonne question.
Oui, alors oui.
Je n'ai pas travaillé dans une émission matinale.
Pas de pitié pour les croissants, c'était quoi ?
C'était une petite fiction dans le Club Dorothée. Mais ouais. Est-ce que vous aimiez bien le Club Dorothée ou vous avez tout fait pour que ça s'arrête ?
Ah non, mais j'ai aucune responsabilité dans l'arrêt du Club Dorothée.
À qui vous pensez, Stevie ?
À Ségolène Royal. C'est à cause d'elle qu'on a perdu Dorothée.
C'est à cause d'elle qu'on a perdu Dorothée.
Ah bon, attends, pourquoi je connais pas l'histoire ?
C'est quoi cette histoire ?
Pourquoi c'est à cause d'elle ?
Non, c'est vrai.
Mais je connais pas l'histoire. C'est quoi
ça nous fait une raison supplémentaire de voter pour elle, dis donc.
Ah bah non, parce qu'elle trouvait les dessins animés du Club Dorothée beaucoup trop violents. Et elle avait fait un livre dans lequel elle accusait...
L'invité n'est pas assez... Est-ce que vous êtes Ségolène Royal ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Dieu merci.
Mais vous étiez téléspectatrice, vous regardiez le Club Dorothée ?
Non.
Écoutez, vous séchez lamentablement, vous allez réfléchir et on se retrouve après la pub.
Profitez bien des dernières minutes dont va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30, c'est la dernière de la saison. On retrouve Laurent Roquier et ses complices qui peinent à deviner qui se cache dans la loge d'honneur. Le mystère demeure donc.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Vous n'avez pas posé beaucoup de questions essentielles à notre invité, parce que vous ne savez pas grand-chose. Vous savez que c'est une femme, vous savez qu'elle écrit, parfois dans la presse, parfois des fictions, mais les autres indices ne vous ont pas vraiment mis sur la voie, je dois dire. Alors, continuez.
Vous avez présenté une émission, on est d'accord?
Oui.
Une émission à succès?
Oui.
Pour les enfants?
Non.
Vous voulez un autre indice?
Oui. Oh ouais, ouais.
Allez, voici un autre indice.
Je veux témoigner dans la rue. Parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve, et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement.
Philippe Alfonsi, vous avez reconnu la voix?
Jean-Paul Sartre.
C'est Jean-Paul Sartre.
Vous avez présenté une émission littéraire?
Non, pas du tout.
Et Sartre, ça vous parle? Vous l'avez rencontré?
Oui.
Vous l'appeliez Jean-Paul à l'époque?
Oui.
Ou JP?
Jean-Paul.
Vous avez travaillé avec lui?
On peut le dire, oui.
Vous avez été marié ou concubine ou une relation particulière avec Jean-Paul?
Vous faites pas partie de la bande de l'émission?
De quelle émission?
D'ici, là.
Ben non, puisque je suis là.
Oui, mais c'est... Ah, on a vu ça, des gens qui faisaient partie...
Posez votre question clairement.
Non, mais
Isabelle.
Je voulais savoir si vous aviez fait partie à un moment...
À qui elle pense. Bravo.
Oui, parce
Christine.
Que Christine, elle
vous Christine Bravo?
Oui.
Voilà, c'est Christine Bravo qui va nous rejoindre.
Ah, tu vois.
Voici Christine Bravo qui nous rejoint. Ils ont été assez forts quand même. Hein. Ça a été assez.
Les indices, quand moi je travaille dans cette émission, le premier indice est introuvable.
Ah oui.
Et là, vous balancez Permission de minuit.
Bah, alors... Personne ne sait que vous avez présenté.
Non, moi c'est Sartre. Hein. Sinon, avant, j'avais rien trouvé.
Ah bon, c'est pas Permission de minuit.
Non, mais là où t'es dur, c'est que Laurent, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'avant qu'on commence la séquence sur l'invité d'honneur, il nous dit c'est une super belle gonzesse. Et direct, non, il nous met sur une mauvaise piste.
Je suis désolé. Mais...
Qu'est-ce qu'il y a?
J'étais très très ému en écoutant Sartre. Parce que c'est ce que je dis souvent, puisque je l'ai bien connu, qu'il avait cette gouaille incroyable et qu'il parlait pas du tout le Alfonsi, tu vois, il parlait, tu vois, il avait pas cette espèce de classe, il parlait comme ça, vraiment, non, mais c'est incroyable, c'est quand même un mec qui a fait la cause du peuple. Et tout.
Mais en tout cas, Permission de minuit, le premier indice, on peut réécouter le générique, c'est pas ça du tout qui a aidé mes camarades,
c'était pas le générique.
Ça c'était pas le générique, mais c'était le titre de la chanson Permission de minuit, et vous avez débuté à la télé. Avec Frédéric Mitterrand dans une émission qui s'appelait
Permission de minuit.
Voilà, mais ça vous a pas mis du tout sur la voie.
Et qui chantait ce truc-là?
Ça, c'était Sweet Generation. Ah oui,
formidable. Non, moi, je cherchais un truc genre lunettes noires.
Puis Dorothée, alors là.
Pas de pitié pour les croissants, c'est parce que vous avez participé à Pas de pitié pour les croissants.
Non, mais arrête, j'ai fait un sketch en pitié. J'étais une pitié. Et je devais sauver une chèvre. Alors, quand tu passes directement de ça à Jean-Paul Sartre, évidemment,
ça fait pitié, ouais.
Tu es incroyable.
Bon, alors évidemment, Jean-Paul Sartre, ça c'était peut-être trop facile, ça, mais
bah,
en même temps...
En tout cas, les gens qui ont connu Jean-Paul Sartre...
connaissent Christine.
Non, mais...
Non,
a...
non, non, on peut
y
pas
y
dire
y en a pas des masses, quand même.
Sylvie, on peut pas dire ça non plus.
Mais moi, j'en connais deux, c'est Françoise Sagan et Christine Bravo, alors, tu
non,
vois.
Non, mais c'est vrai que moi, je l'ai connue, en plus, ça m'a fait mal, je sais pas qui m'a demandé si j'avais été sa maîtresse. J'avais 17 ans...
Et qui veux-tu que ce soit ?
Ben voilà, qui veux-tu que ce soit ? J'avais 17 ans, il en avait 50.
J'avais d'autres indices qui étaient prêts, par exemple celui-ci.
À l'école, nous avons appris la
BC.
La maîtresse avait des méthodes avancées.
Voilà, la maîtresse d'école, évidemment, ça vous aurait encore plus facilement peut-être mis sur la voie. Ouh. Alors là, après, j'avais des choses encore plus faciles. J'avais évidemment.
Mon amour pour le Mexique est brûlant comme un feu.
C'est si bon d'être heureux.
J'avais aussi, évidemment, au cas où vraiment là, si vraiment vous n'aviez pas trouvé, si vraiment vous aviez été lamentable, j'avais aussi ça. Alors évidemment, si vous aviez insisté, mais vraiment insisté, alors je vous aurais aussi passé celui-là.
Là, on aurait trouvé.
J'avais un peu modernisé quand même.
Oui,
parce que là, t'es en train de me mettre un coup de pétard.
Alors, c'est plus froufrou aujourd'hui, c'est foufoudre. Foudre, c'est le. Ah, bah oui, écoutez.
C'est vrai.
Ah, finalement, c'est voilà des syllabes qui vous portent chance et bonheur. De froufrou à foudre. Foudre, c'est le titre du nouveau roman. Voilà un roman qu'on peut emmener cet été sur la plage. C'est le livre
de. Ne mettez pas trop de sable dessus quand même.
Le livre de Christine Bravo, dont on parle dans un instant après la pub.
Les dernières minutes d'On va gêner arrivent sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices. C'est la dernière de la saison et du coup, c'est une de leurs complices à eux qui est à côté. L'invité d'honneur est Christine Bravo.
Foudre, c'est le dernier livre de Christine Bravo. Enfin, quand je dis le dernier en date, hein, évidemment, il y en aura sûrement d'autres, même si elle met toujours beaucoup de temps hein, entre deux livres publiés, Christine. Ouais. C'est chez XO Éditions. Ça marche très très bien, mais là, je voudrais quand même vérifier si les camarades autour de cette table sont des bons camarades. Moi, évidemment, je l'ai lu, mais je voudrais savoir qui l'a lu autour de cette
table. J'ai commencé à le lire.
Commencer, ça veut dire quoi, ça, Stevie?
Commencer. J'ai commencé parce que je garde vraiment, je veux le lire d'un trait. Et je dois dire que Christine... le narrateur, c'est un homme qui raconte. C'est
non, il y a les deux.
Oui, oui,
il
oui,
il a lu
oui d'accord. Mais je commence.
Il a lu que l'homme.
Non, non, j'en suis à l'homme après. Non, non, mais
au moins t'as sauté la femme.
Et je dois dire qu'en homme, tu m'excites. Je te jure, t'es hyper excitant.
Bah, c'est le jeu amusant de Christine Bravo, c'est de s'être mis dans la peau effectivement des deux personnages principaux qui ont ce coup de foudre au départ dans un ascenseur à Atlanta pendant les Jeux Olympiques du même nom. Et évidemment, à partir de cette histoire, l'un et l'autre. On le rappelle quand même vite fait, moi je vous dis tout ça de mémoire, mais l'un et l'autre sont évidemment mariés, sont très amoureux en plus de leur, conjoint.
C'est la catastrophe.
Et malgré ça, ils ont un coup de foudre avec quelqu'un qu'ils rencontrent là-bas pendant les JO. Philippe Alfonsi, vous l'avez lu ?
Pas encore, non, non, mais je le lirai parce que je l'ai entendu dans votre émission à la télé et je l'ai trouvé formidable.
Bah, attends, nous on lit des livres toutes les semaines, hein, je vous rappelle.
Ça fait, ça fait deux mauvais camarades. Gaspard Proust
pour l'émission.
Non, non. Gaspard... Moi, je suis en train de le lire, j'attends d'arriver jusqu'à la fin. Bon, mais ça démarre vachement bien. C'est l'histoire d'un coup de foudre dans un ascenseur.
Atlanta.
Non, franchement, c'est super.
Ce qui est terrible, c'est que les deux sont bien mariés. Vous voyez ?
On n'a pas d'amis.
Et c'est
terrible. Hein.
Ce qui est incroyable, c'est que dès la première page, tu rigoles.
Ouais. Et on s'accroche.
Non, mais l'histoire, elle est vachement bien.
Alors, attendez, Fabrice Eboué.
D'Atlanta.
Oui, moi, j'ai lu le livre.
Ah, très bien, Fabrice. Alors ?
Si, il parle d'ailleurs, la première page dont il parle, c'est quand elle raconte qu'elle est à côté d'une grosse dans l'avion, etc. Je peux vous le préciser. Voilà. Non, j'ai lu le livre parce que Christine m'a fait chier pendant des mois en me racontant jour après jour ce qui se passait dans le livre de toute façon, donc elle me le raconte au fur et à mesure. Donc dès qu'il est sorti, je suis empressé de le lire.
C'est vos femmes en fait qui vous les ont pris.
Exactement, voilà. c'est
toi,
la réalité.
Toi tu as dit que c'était ta femme et toi tu as dit que c'était ta femme aussi.
Parce Isabelle
que non, pas Isabelle, Jérémy. Parce qu'en fait, effectivement, les femmes sont un peu inquiètes de savoir ce qui se passe quand vous avez le dos. Quand les mecs sont partis, surtout des gens qui exercent des professions comme les vôtres.
Itinérants.
On voyage beaucoup. Ouais. Et effectivement, j'ai envie lui dire, c'est pas Jojo.
Vous avez lu Michalak?
Oui, moi je l'ai lu.
Ah, c'est bien. Alors, un mot, une critique sur le livre?
Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un très très bon livre. Moi, ce qui me plaît dedans, c'est toutes les références aux États-Unis, dans cette espèce de road trip qui se passe dans le vieux sud américain.
Ah oui, ça, alors, elle est douée pour vous citer toutes les marques.
Ouais, mais c'est ça qui est bien, parce que tu visualises, comme dirait Stevie, t'y es, quoi. Ouais, c'est comme un film, c'est comme un bouquin.
Non, mais c'est vachement bien.
Et Isabelle Motreau?
Non, moi je l'ai pas encore lu, mais j'attends que l'émission soit finie pour pouvoir enfin lire ce que je veux et pas ce qu'on m'impose chaque semaine.
On n'a pas d'amis dans cette émission.
Mais arrête, tu rigoles.
Ah non, il faut le savoir.
Ah non, on finira seul.
Moi, je lirai, j'ai poussé Christine à écrire.
À la rentrée, tu vas refaire l'émission, t'as gagné assez de pognon avec le livre.
Alors, c'est tout. On va voir si ça devient le livre de l'été ou pas. Et si ça fait un beau score cet été, comme il est parti pour marcher un peu, effectivement, je vais pouvoir me consacrer à l'écriture avec un avaloir.
Si ce livre marche, vous quittez la France.
Ouais. Ben, allez, tout le monde l'achète.
Non. Mesdames et messieurs, faites un effort.
Pensez à la France.
Ça veut dire quoi, quitter la France? Je veux la vie de Carsozon. Je veux vivre.
Tu veux vivre avec Carsozon?
Non, je veux vivre à l'étranger.
Tu veux me frapper?
Et faire le boulot qui me plaît, vraiment ma passion.
Est-ce que tu vas rembourser Koé pour le fiasco de son émission?
Et revenir. Mais t'es chiant. Et revenir comme Carsozon. C'est avec vous 15 jours, c'est vraiment le rêve.
Et Sam et Anna, qui sont les deux héros fictifs, rappelons-le.
Oui, c'est pas autobiographique, mais c'est arrivé à tous mes copains.
De ce livre, Sam et Anna, est-ce qu'ils pourraient. Apparemment, c'est bien parti pour très bien marcher, ce bouquin. Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Est-ce que Sam et Anna pourraient se revoir?
Mais je crois que, d'abord, là, quand vous racontez ça, vous racontez un peu la fin ou les interrogations que vous avez sur la fin. La vérité, quand on tombe amoureux de quelqu'un alors qu'on aime déjà quelqu'un, c'est tellement compliqué qu'il n'y a pas de fin. C'est-à-dire, à moins de quitter les deux et de partir avec une troisième personne. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement la fin. C'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on reste avec la femme qu'on aime ou le mari qu'on aime, sachant qu'une passion, ça va durer quoi? Allez, un an. Après, ils vont se retrouver dans la même situation qu'avec leur premier conjoint respectif, c'est-à-dire à s'aimer autant, mais plus dans cette dinguerie où vous attendez un coup de fil. C'est ça qui m'a plu, moi, dans ce bouquin, c'est de raconter l'attente du coup de téléphone. T'es sous la flotte dans des cabines téléphoniques. En plus, en 96, il n'y avait pas de portable, tu vois. Donc, c'était vraiment galère. On allait se planquer dans des cabines, je dis on, enfin, tous les gens qui ont vécu ça.
Bien sûr. Je rappelle que c'est une fiction.
Des gens qu'on connaît pas, mais qu'on a vu dans les films.
Mais vous voulez savoir, bien sûr que ça m'est arrivé.
Ah.
Bien sûr que cette histoire m'est arrivée.
Mais à Atlanta?
Pas à Atlanta, non. D'abord, je suis pas allemande. Je vous signale que le personnage féminin est une allemande. Et
ce qui change tout, Francfort.
Et ça change tout.
Mais le personnage masculin est français.
Oui, et voilà.
Puis alors, surtout pas dans un ascenseur.
Ça pourrait être l'inverse, par exemple.
Mais ça pourrait être l'inverse.
Mais pas du tout. Assimilé à l'homme, là-dedans.
Moi, j'ai adoré écrire à la place de l'homme, parce que, en fait, dans les livres, tu vois, Bukowski, Fante, tous ces gens qui parlent de sexe, c'est jamais vulgaire, et tu mets les mêmes choses dans la bouche d'une femme, enfin, je veux dire les mots, les mêmes mots, et ça devient insupportable.
Toi, t'es un mec.
Mais non, mais ça devient insupportable, mais c'était un vrai exercice de style, c'est-à-dire c'est pas facile, enfin, ça n'a pas été facile pour moi d'écrire dans la peau d'une fille.
En tout cas, vous avez mis beaucoup de vous, évidemment, parce que vous nous avez évidemment déjà raconté ici combien vous aimeriez être enterré au petit Montparnasse.
Et à côté de Maupassant.
Voilà, et là, c'est dans le livre, quoi. Ouais. Voilà.
Et j'ai trouvé la place, d'ailleurs. Il y a une place, il y a un arbre, il faut l'enlever, mais.
C'est Sam qui parle, donc, donc ça prouve bien que c'est vous l'homme, puisque c'est Sam qui dit je vais au petit Montparnasse une fois par an.
Tu me cherches, tu me cherches.
À chaque Toussaint, je fleuris sa tombe, je dépose un bouquet de roses. Sur donc la tombe de Maupassant, je n'ai pas le choix, c'est ça ou des chrysanthèmes en pot. Je ne me vois pas fourguer des chrysanthèmes en pot à l'auteur de Boule de Suif. Un de ces jours, il faudra qu'on m'explique le business des fleuristes de cimetières qui, en automne, ne fourguent que des fleurs moches et qu'on ne vienne pas me raconter que c'est à cause de la saison. Je suis sûr qu'il y a autre chose là-dessous.
Ouais. C'est vrai que j'ai demandé au conservateur du cimetière du Montparnasse à être enterré le plus près. Il m'a dit, oh là là, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, madame Bravo. Je dis, quoi? Il me dit, il y a 20 ans d'attente. Je dis, mais j'attends.
Elle est grave.
En plus, c'est pas en ordre alphabétique, je crois que tu peux finir à côté de Bénichou.
Non, mais j'ai appris, effectivement, quand j'ai fait des recherches pour le roman, mais c'est vrai que on vous met en pile. les cercueils dans une fosse. Et c'est comme à la sécurité sociale, plus tu montes et plus t'as une chance d'avoir ton trou à peu près où tu veux.
Et si au pire on te fout dans le jardin de Laurent, ça va ou pas?
Ah oui, je peux vous enterrer.
Tu devrais enterrer tous les chroniqueurs dans ton jardin.
Il y en a déjà.
Oui, il en a enterré, t'inquiète.
À votre avis, qu'est-ce qui est devenu Jean-Luc Lemoyne?
Avec Stevie en dessous tout le monde.
Oh. Le pire, c'est quand je vais devoir creuser pour Caroline Diamant.
Oh merde.
C'est atroce. Atroce. Avec des amis comme ça.
Allez, c'est chez XO.
Michalak, ça arrivera vite, un petit tas de feuilles sur lui.
Une boîte à chaussures, moi
c'est comme quand on enterre un chat, c'est pareil.
Une boîte à chaussures, ça suffit pour Jérémy Michalak.
Pour l'enterrer à la verticale.
Ah oui. Ah oui, les faces arrière pour ranger mon vélo, évidemment.
Allez, bonnes vacances. Hein.
Christine, on était ravis que vous ayez accepté de jouer le jeu pour la dernière de notre saison. On est là dès la semaine prochaine, hein. on part en vacances ce week-end, mais on est là dès lundi avec des best-of.
Ah d'accord.
Eh oui, et des best-of tout l'été, hein, sur Europe 1, on sera là avec les meilleurs moments, donc je ne peux pas vous garantir que vous serez là. Hein. Ah, non, mais il y aura forcément Pierre Bénichoux, en tout cas. J'espère en tout cas que vous passerez de bonnes vacances, tous et toutes, et surtout si vous n'avez pas encore lu le livre de Christine Bravo aux foudres, eh bien profitez-en, prenez le temps cet été pour le faire. Je vais souhaiter à toute l'équipe évidemment bien se reposer. On se retrouve très vite à la rentrée. C'est que les radios reprennent leur programme le 23 août, hein. C'est quand même...
Ah ouais.
23 août, on est là au micro d'Europe 1, mais on est là de toute façon avec vous de tout cœur pendant l'été. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés derrière les caméras. Il y en a aussi des caméras ici à Europe 1, mais en tout cas derrière la vitre, que ce soit François Renucci, notre réalisateur, que ce soit Laurette, Anthony, Arnaud Crampon, Nicolas à la technique. Je ne cite jamais leur nom, mais en tout cas voilà, c'est fait. Merci à tous de nous avoir accompagnés.
Marc-Olivier Fogiel à la régie qui se
et puis on espère que Daniel sera encore là à la rentrée, hein.
C'est pas sûr, il paraît qu'elle part en vacances avec Monique Pantel. Ils font du topless.
Ah merde. Vous arrondez régulièrement, hein.
Mais en tout cas, Christine n'est pas folle. Elle est venue le jour où Daniel était là parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir être ramenée à la maison.
J'ai un taxi.
J'ai un taxi. Bah, vous pouvez peut-être ramener Daniel.
C'est mon éditeur qui paye. Hein,
ça marche vraiment bien le livre.
Oui, ça y est, il est en train de partir là.
De partir.
Il est en train de monter. Bah, il est en train de monter dans les meilleures ventes de livres hebdo. Donc, je suis ravie et vraiment merci de m'avoir invité.
Vous allez en station-service pour les routiers.
Non mais
c'est vrai,
il est partout, il est dans toutes les grandes surfaces et surtout il est accessible. C'est pas un roman vraiment compliqué à lire et ça vous concerne tous. Et puis alors l'été, méfiez-vous de l'été, les filles, méfiez-vous de l'été. Ben oui, parce que les maris, il y en a beaucoup qui restent à Paris pendant que vous partez avec les enfants.
Mais on met des capotes, hein.
À l'époque, il y avait des capotes.
En 96,
les Égyptiens, les capotes, tu rigoles.
Mais vous en utilisiez, je veux dire.
Écoute, enfin, si tu avais lu le livre, tu sauras qu'il y a une séquence capote.
Je pose la question.
Donc c'est autobiographique. Donc c'est autobiographique. Tu viens de te trahir en direct.
Voilà. Foudre chez XO Éditions. Merci à Christine. Bravo. Bonnes vacances à tous.
Et merci à vous, très cher Laurent Ruquier. Rendez-vous dès la saison prochaine pour On va gêner. Reposez-vous bien.